RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière fois dans ce Tour de France 2013. C'est aujourd'hui la 20e étape de ce Tour de France entre Annecy et le Semnoz, 125 km. Je vous le disais il y a quelques instants, l'avant-dernière étape, mais probablement la dernière étape, la dernière véritable étape de ce Tour de France, car demain, il s'agira surtout de boire du champagne, de déguster les petits fours, de célébrer la victoire de Chris Froome ou encore l'arrivée de cette 100e édition du Tour de France. On vous en parlera de cette étape de demain qui démarrera beaucoup plus tard que d'habitude puisque les coureurs s'élanceront du château de Versailles à 17h45 pour arriver sur les Champs-Élysées aux alentours de 10h moins le quart, 10h, juste pour la tombée du jour pour un spectacle qui sera probablement grandiose. Autre spectacle grandiose, celui qui nous attend donc aujourd'hui pour cette 20e étape du Tour de France. C'est la dernière étape de montagne et le plateau est quand même assez redoutable. On va en parler bien sûr avec toute l'équipe. Ils sont là, les yeux bien ouverts pour l'avant-dernière fois. Demain soir, c'est la quille, messieurs. Frédéric Adam est là, en pleine forme, lui aussi. Il est allé voir le Mont Blanc tout à l'heure. Ça l'a revigoré pour les derniers jours. Ça va, Fred?
Ça va très, très bien. Quelle beauté cette arrivée au Semnoz. Effectivement, vu sur les Bauges, vu sur toutes les Alpes, avec les écrins en fond. Il y a le Mont Blanc, effectivement. Le spectacle est grandiose. Le 100e Tour de France tient ses paroles, sa parole, jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernier jour. Et demain, ce sera encore un autre feu d'artifice.
On se sera régalé les mirettes durant 3 semaines de course. On a vu les plus beaux paysages de France et ce n'est pas terminé. Aujourd'hui le Mont Blanc, demain le château de Versailles et demain soir les Champs-Élysées. C'est pas mal également comme programme et comme paysage. Cyril Guimard est également avec moi comme tous les jours. La bande à Guimard, elle est là, la bande à Guimard. Salut Cyril.
Oui, et mon micro ouvert. Et
en plus, c'est la première fois. On en profite. Bravo Cyril. Il fallait bien que ça arrive un jour.
Ben ça y est, le dernier jour, je commence à être rodé.
Voilà. Et puis la moto RMC avec Georges Quirino. Il est là, notre grimpeur colombien. Oh, si ça va lui manquer cette petite chanson après-demain. Ça va, Georges?
Salut, oui, bonjour.
Oh, il rit,
bon, je sais pas si ça va me manquer.
Ouais.
Si, quand même.
Il rit,
ça va un peu me manquer. Et on a eu un décor magnifique, nous aussi, au départ. Vous parlez de l'arrivée, mais nous, le départ de Annecy avec les premiers kilomètres, nous avons longé le lac d'Annecy sous le soleil. C'était pas mal aussi.
Évidemment. Mais c'est une magnifique région, la Haute-Savoie. Baigné de soleil aujourd'hui. C'est vrai qu'hier et avant-hier, il y a eu des orages, mais aujourd'hui, le ciel est pur, le ciel est limpide, il est tout bleu pour fêter les coureurs du Tour de France. Donc, je vous le disais, 20e étape entre Annecy et le Semnoz. On va tourner autour d'Annecy, on va longer le lac d'Annecy, on va s'élever, on va longer le lac d'Aix-les-Bains pour finir sur les hauteurs d'Annecy, donc avec le Semnoz. 107 km encore à parcourir. Ça, c'est l'île aux enfants, mais je sais pas pour qui, hein, franchement, je ne vois pas. Fred, je ne sais pas pour qui c'est l'île aux enfants. Allez, on va faire tout de suite un premier top course, car nous sommes déjà dans la course, une étape qui a débuté il y a un petit peu moins d'une heure. Fred, c'est le premier top course de la journée. Il se passe déjà pas mal de choses sur les routes de ce Tour de France.
RMC Top Course.
Avec effectivement une étape au profil montagne russe, deux difficultés déjà escaladées. Il reste encore 107 km à parcourir avant l'arrivée. Ici en haut du Semnoz, col hors catégorie. Ils sont 10 à l'avant et devinez qui a attaqué le premier. C'est Pierre Roland qui était à un point de Christopher Froome au classement du meilleur grimpeur et qui a voulu se lancer dans une nouvelle chasse au gros point aujourd'hui après sa folle chevauchée vers le Grand Bornand hier. Il est passé en tête du premier col et vient d'être devancé au col de l'Échaud par l'un de ses compagnons d'échappée. Ils sont 10. C'est Igor Anton le basque qui vient de devancer. C'est Pierre Roland accompagné par deux autres Français, Cyril Gauthier chez Europcar, Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez pour AG2R La Mondiale. Et puis notez la présence des Allemands Burgart et Voigt, de l'Espagnol Flecha, du Russe Pavel Brut, des Basques Igor Anton et Mikel Astarloza, coéquipiers chez Euskaltel, et de l'Australien Simon Clark pour l'équipe Orica Green Edge. Orica qui aura fait un début de Tour de France tonitruant et qu'on a un peu moins vu ces derniers jours. Les revoici à l'honneur, 10 coureurs à la avant de la course avec 1,40 d'avance sur le groupe maillot jaune emmené par les Movistar de Valverde, de Quintana, de Rui Costa. Ça sent encore la belle bagarre aujourd'hui avec le Mont-Revard classé en première catégorie et donc cette ascension finale hors catégorie. Le tour n'est absolument pas fini.
Oh non, il sera fini ce soir le Tour de France, mais en attendant, il nous reste quelques belles heures à vivre dans cette ascension. Cyril me dit non, c'est pas sûr qu'il soit joué ce soir, comment ça?
Bah, depuis le départ du Tour, Christophe, tous les soirs et tous les matins, tu nous dis le Tour est plié.
La messe est dite.
Alors il y a bien un moment où ça va être vrai.
Ouais, demain soir.
Demain soir.
Vers 22h. Non mais Cyril, c'est vrai que l'étape de demain, elle est pour la gloriole. Je sais que fut un temps où la dernière étape était importante, notamment en 1989. Depuis ce terrible renversement de situation pour Laurent Fignon, tu avais vécu évidemment parce que tu étais le patron à l'époque de Laurent.
Beaucoup plus tôt que ça, on a vu deux coureurs arriver seuls sur les Champs-Élysées. C'était Bernard Hinault et Job Zoetemelk,
oui.
Qui avaient attaqué dans la côte des... Je sais plus là, comment, du plus. Côté de...
De l'homme mort?
Non, juste comme la côte des gardes.
Oui.
Et qui était sorti là, il y avait une grosse castagne, Zoetemelk avait attaqué, et bien le blaireau avait contré, et ils sont arrivés tous les deux au sprint pour la première place.
Voilà, mais maintenant, malheureusement...
Donc le peloton n'est jamais rentré.
Malheureusement, c'est plus le cas. C'est vrai que c'était sympa, ces étapes où il se passait quelque chose lors de la dernière journée.
Mais alors, enfin... vous savez pourquoi il se passe rien?
Parce qu'on fait
parce qu'il y a une sorte de rituel maintenant, où pendant 30 km, on distribue des coupes de champagne au directeur sportif. Pendant ce temps-là, on est peinard. Après, on arrive sur les champs. Bon, là, il peut pas se passer grand-chose. Mais il a failli une année se passer un mini-drame pour le classement général. C'était en 77. Il pleuvait, il y a eu une chute sur les Champs-Élysées. Et Bernard Thévenet, le maillot jaune, était dans cette chute. Je crois qu'il y avait Jacques Esclassant qui était dans cette chute. Et depuis, d'ailleurs, s'il pleut, on prend les chronos à l'entrée des Champs-Élysées et non plus sur la ligne. Mais imaginez un seul instant que Bernard Thévenet ne puisse pas repartir ou repartir avec beaucoup de retard. Il aurait lui aussi perdu le tour sur les Champs-Élysées. Depuis, on a refait, on aseptise tout un petit peu. Hein. Ouais. On a refait le règlement pour dire, s'il pleut, quand on arrive sur les Champs-Élysées, on fait le classement final à l'entrée des champs.
Ouais.
Alors pourquoi pas supprimer aussi les descentes de col et puis tout le reste.
Oh là, c'est plus que c'était. Hein.
C'est pourtant, on était en 77.
Ouais.
Pour la petite histoire, c'est un de mes coureurs qui avait gagné l'étape.
Ah, mais tiens, ça change, tiens. Il a toujours tout gagné, Cyril, avec ses coureurs pendant des années.
Il faut que je le répète, il n'y a plus personne qui le dit. Alors,
Cyril. On le sait.
Je suis bluffé par
le. On l'a lu dans le journal de l'équipe tout au long du mois de juillet. On l'a lu partout dans tous les journaux. Cyril Guimard reste une légende du Tour de France.
Ouais, mais il y a seulement aujourd'hui que j'ai une photo.
Ah bah oui.
Ah oui.
On va en parler tout à l'heure. On va en parler du Revard tout à l'heure. T'inquiète.
Je suis bluffé par la popularité de Cyril, qui est quand même qui est un druide avec donc l'âge de ses artères, sans lui faire offense. On entend régulièrement, notamment dans les montées de col, des jeunes hommes de 20-25 ans demander Guimard, acclamer Guimard.
C'est parce qu'ils écoutent le druide sur RMC. C'est pas parce qu'ils ont vécu les victoires au Revard.
C'est réjouissant. Hein,
ouais, bien sûr.
L'histoire ne s'efface pas comme
mais
ça.
Mais Fred Adam est également très populaire. Il est très demandé
dans
les montées.
Christophe, comment
Pichot,
déjà
Christophe Pichot
aussi.
Christophe Cessiou pour les intimes.
Georges Quirineau aussi, il est très demandé. Il est très félicité. Il est encouragé par les coureurs du Tour de France, surtout par les spectateurs. Georges sur la moto RMC, donc qui se trouve à l'avant de la course avec le petit groupe de tête dans lequel on retrouve évidemment Pierre Roland. On va en parler, Pierre Roland. Georges, ambiance cet après-midi. Il fait très beau. Il fait pas très très chaud puisqu'on est sur les hauteurs, bref une température idéale et encore une fois pas mal de monde aujourd'hui sur les bords de la route.
Exactement, on a quand même troqué les ponchos que l'on avait hier sur les derniers kilomètres qui menaient au Grand Bornand pour les t-shirts et les shorts aujourd'hui pour les supporters qui viennent le long de la route du Tour de France. Énormément de supporters norvégiens constatés aujourd'hui notamment, ils sont toujours très nombreux sur les routes du Tour de France, une ferveur incroyable au départ à Annecy et tout le long de ce lac magnifique qui accompagnait les coureurs pour les premiers kilomètres et dans les deux ascensions également comme d'habitude depuis le début de ce Tour de France, toujours une affluence incroyable pour encourager notamment Pierre Roland, beaucoup de supporters pour encourager le Français de l'équipe Europcar qui est parti dès le kilomètre zéro et que les supporters ont eu la joie de voir tout de suite au premier rôle. Il est vraiment énormément encouragé, tout comme Christophe Riblon depuis sa victoire à l'Alpe d'Huez. On voit fleurir sur les bords de route énormément de pancartes à la gloire de Christophe Riblon, le coureur de l'équipe AG2R mondiale qui est présent également dans ce groupe de tête qui est dans la descente du col de l'Échaud. Maintenant, on va rentrer dans le département de la Savoie dans quelques instants, quitter la Haute-Savoie pour les hommes de tête qui sont au milieu des arbres. Un petit peu de fraîcheur là pour les hommes de tête dans cette partie de la course.
Très bien, il en faudra de la fraîcheur aujourd'hui. Les températures montent petit à petit sur tout le pays, pas vraiment encore en Haute-Savoie, mais demain, soyez-en sûrs, entre le château de Versailles et les Champs-Élysées, il fera très chaud puisqu'on annonce la canicule à Paris avec des températures qui pourront atteindre les 35 degrés. Je pense que le champagne sera dégusté et englouti à vitesse grand V demain entre Versailles et Paris. 102 km donc à parcourir et donc un homme dans ce groupe de tête, il se nomme Pierre Roland, Fred. Pierre Roland qui hier a tout donné, a tout tenté dans l'étape qui conduisait au Grand Bornand pour décrocher la victoire d'étape, mais surtout pour se rapprocher au classement de la montagne. Il n'était hier que deuxième à un point de Chris Froome. Il est désormais en tête de ce classement de la montagne.
Oui, puisqu'il est passé effectivement en tête de la première difficulté de la journée, un col classé en deuxième catégorie, la côte du Puget, et puis il vient de prendre là un petit point au col de l'Échaud derrière Igor Anton. Le voilà avec 5 longueurs d'avance sur Christopher Froome, mais il reste du monde intéressé par ce classement du meilleur grimpeur, notamment le basque Mikel Nieve qui a mis deux émissaires dans le groupe d'échappés aujourd'hui. Nieve qui joue le classement général également, et il reste de gros points avec ce Mont-Revard classé en première catégorie. Il y aura 10 points, mais aussi et surtout le col hors catégorie, le Semnoz qui distribuera 50 points puisque les points sont doublés puisque c'est une arrivée au sommet. C'est dire que rien n'est joué, rien n'est gagné, loin de là pour Pierre Roland. Et peut-être que
en fait tout se décidera dans la dernière ascension de ce Tour de France pour le classement de la montagne.
Si Christopher
Quel beau
Froome,
scénario.
Si Christopher Froome veut faire le coup de poing, nul doute que c'est lui qui sera et maillot jaune et meilleur grimpeur sur ce
Quintana
tour.
Lui pourrait devenir meilleur maillot blanc et maillot à poids aussi.
Exactement, et Nieve peut aussi aller chercher le maillot à poids. Christophe Riblon aussi, mais Riblon est dans l'échappée du jour là, parti dès ce matin à la sortie d'Annecy, et ce sera compliqué quand même pour ces 10 coureurs échappés de rallier le Semnoz tout là-haut pour aller chercher les gros points, parce que à l'avant du peloton, eh bien les Movistar de Quintana sont en train d'étirer le paquet. Ça roule en file indienne, 1 minute 17 dernier pointage d'avance pour les 10 échappés, dont les 3 français, Pierre Roland, Cyril Gauthier et Christophe Riblon.
Oui, à l'avant de ce peloton, on prépare les grandes opérations qui auront lieu probablement dans la dernière ascension du jour. Cyril, hier soir nous avons débattu autour du cas de Pierre Roland. Pourrait-il rêver de ce maillot à poids? Aujourd'hui, il est en tête, mais le sera-t-il tout à l'heure? C'est vraiment une autre paire de manches.
Il est en course, il est dans l'échappée, alors on peut toujours essayer d'imaginer des scénarios extraordinaires qui feraient que cette échappée aille au bout et puis que Pierre Roland faire une place là-bas, là au sommet où il y a encore des points. Il faudrait quand même qu'il s'occupe de Riblon quand même en même temps, parce que Riblon n'est quand même pas très loin au classement, puisqu'il a 93 points et que Roland en avait 103. Donc
il est à 93 Riblon, donc il est à 100, il a 16 points.
Donc il y a 16 points, c'est 3 fois rien quoi. Mm-hmm. Surtout avec les points doublés. Donc on n'est pas encore rendu. Alors laissons, comme je dis souvent, laissons la course vivre.
Oui. En tout cas, c'est vrai que le scénario est incroyable, Cyril. C'est rare que dans un Tour de France, le classement de la montagne se décide lors du dernier col franchi.
À part le jaune et le vert, rien n'est fait.
Même pour le maillot blanc.
Pour le classement par points, le classement de la montagne, le classement par équipe et les places sur le podium, c'est pas joué.
Ouais. Il reste encore effectivement.
Et c'est pour ça que ça va être dur pour cette échappée d'aller au bout. On a vu d'ailleurs que l'échappée possédait plus d'une minute cinquante tout à l'heure, donc elle a perdu plus de 40 secondes. C'est ce qui veut dire que derrière, on ne laisse pas cette échappée partir, parce que justement, il y a des enjeux sur la dernière ascension et les Movistar, ils espèrent bien une grosse explication dans la dernière ascension avec Quintana entre autres.
Très bien. Alors évidemment, ce matin, Jean-René Bernadot a motivé ses troupes, le patron de la formation Europcar, qui veut ce maillot à poids, qui veut également, pourquoi pas, une victoire d'étape. Et c'est lui-même qui a décidé de tenir le briefing ce matin, chose qu'il n'avait pas fait depuis le début. On va l'écouter tout de suite, Jean-René Bernadot, c'était ce matin, donc avant le départ de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France.
On méritait mieux, on a refait les étapes où on n'a pas eu de réussite, de Marseille jusqu'au Mont Ventoux, ça ne rigole pas, mais les jambes sont bonnes, l'état d'esprit est formidable. Donc j'ai dit aujourd'hui, promettez-moi de tout faire pour pas avoir de regrets, pour qu'à Paris la fête soit belle. Alors on pourra pas l'écrire à l'avance cette histoire, mais je peux vous dire que le collectif fonctionne. Donc il y a 3 étapes, il y a les points pour Pierre, l'échappée avec Thomas ou l'échappée sans Thomas, mais il faut vraiment qu'on réussisse à conclure quelque chose. Il mérite mieux, mais si on fait les étapes une par une, ouais, je suis déçu, il mérite mieux.
Voilà, Jean-René Bernodeau qui motive ses troupes.
Hein. C'est étonnant de le voir passer au briefing à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, lorsqu'il a annoncé il y a quelques jours, lors de la deuxième journée de repos, la prolongation du contrat de sponsoring de son partenaire Europcar. Il a rappelé l'extrême confiance qu'il avait, l'extrême satisfaction qu'il éprouvait à voir ses directeurs sportifs, Ismaël Mottier, Andy Flickinger ou Sébastien Joly, qui a rallié le staff cet hiver chez Europcar, et il soulignait bien qu'il s'occupait désormais de l'administratif, du marketing, et qu'il laissait vraiment tout pouvoir à ses directeurs sportifs sur le sportif, justement. Et bien là, quand les choses comptent vraiment, chassé naturel, il revient au galop. Ouais. On est patron d'équipe et attaché à la course cycliste viscéralement, n'est-ce pas Cyril? C'est difficile de basculer manager quand on a été coureur puis directeur sportif.
Oui, mais je pense que de temps en temps, le manager général doit intervenir dans le cadre qui est le sien, sans remettre en cause obligatoirement et surtout ses directeurs sportifs. S'il a des choses à dire au directeur sportif, c'est pas devant les coureurs, donc il va les réunir dans une réunion de travail. Mais les coureurs ont besoin aussi d'entendre leur manager général.
C'est le boss, hein, c'est le patron.
C'est le boss, mais il faut qu'il y ait aussi adhésion à un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait une coordination. Il faut que les coureurs sentent qu'il y a qu'une ligne. Et c'est donc tout à fait logique que de temps en temps le manager puisse communiquer avec ses coureurs.
Très bien, il est 14h24, on va s'interrompre quelques instants et revenir ici le plus rapidement possible sur la route du Tour. Il reste un peu moins de 100 km à parcourir et il n'y a plus qu'une minute 26 d'avance pour le groupe de tête, groupe dans lequel on retrouve notamment Pierre Roland, porteur du maillot à poids et qui est en tête de ce classement de la montagne. Mais va-t-il le rester ce soir? C'est évidemment la grande question. L'autre question concerne la bagarre pour le général et notamment pour le podium, pour la première place. On va pas faire du faux suspense, c'est déjà dans la poche pour Chris Froome. Allez, à tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
14h28, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix, surtout si vous aimez le vélo, surtout si vous aimez le Tour de France, vous avez fait le bon choix et en plus il ne reste pas beaucoup de choix puisque c'est l'avant-dernière étape. Demain, on ferme la boutique et on passe à autre chose. En tous les cas, cette 20e étape promet sur le papier, elle promet la grande bagarre tout à l'heure. Peut-être pas, je vous le disais il y a quelques instants, pour le maillot jaune de Chris Froome qui va se contenter de regarder ce qui se passe aujourd'hui. On en parlera dans un instant avec Cyril, il sera au spectacle. J'entendais tout à l'heure dire ça, Cyril. Mais d'autres ne seront pas au spectacle, ils seront acteurs de la pièce. On pense notamment à Quintana, on pense à Contador, on pense à Kreuziger et on pense à Rodriguez, quatre hommes qui se tiennent en seulement 46 secondes. Et il y en a un qui ne sera pas sur le podium demain soir, un de ces quatre, donc un de ces quatre, même il y en aura deux.
Donc, oui, oui les maths, au mois d'août, il n'y a pas d'Ibiza, il n'y a rien du tout, c'est les cahiers de vacances et c'est l'option maths.
Il y aura deux malchanceux, deux cocus. Comme on dit, c'est ça, Fred?
Oui.
Bon, allez, vas-y, allez.
Il y en aura peut-être plus que deux, hein, après le tour, quand même.
Ouais, ça c'est une... Alors bravo, tiens. Allez, c'est parti, le top course.
RMC Top Course.
Avec 10 coureurs échappés en cette avant-dernière étape du Tour, dernière journée de montagne entre Annecy et le Semnoz, la montagne des Annecéens, comme elle est surnommée, un grand tour dans les Bauges, puis cette montée hors catégorie. Ils sont 10 à avoir anticipé la grande bagarre qui nous attend tout à l'heure en fin d'après-midi. 3 Français, Pierre Roland à la chasse au point du maillot à poids de meilleur grimpeur, Cyril Gauthier, le breton de l'équipe Europcar, coéquipier de Pierre Roland, Christophe Riblon, le vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez, Kazakh AG2R la mondiale sur le dos, et puis il y a là également les Allemands, Marcus Burgart et Jens Voigt, l'Espagnol, Juan Antonio Flecha, le Russe Pavel Brut, les deux Basques Igor Anton et Mikel Astarloza, et l'Australien Simon Clark. Ces 10-là ne parviennent pas à creuser l'écart. 1-0-8, le groupe maillot jaune, le peloton, est conduit à très très vive allure par les Movistar de Valverde, de Rui Costa, mais surtout de Nairo Quintana qui vise la deuxième place du général aujourd'hui.
Très bien, on va justement faire un petit tour à l'avant de la course avec Georges Quirino sur la moto RMC accompagné de Marc Comp. Ils sont avec le groupe de tête et pour l'instant vous n'avez pas été obligé de les doubler. C'est le signe, Georges, qu'il y a plus d'une minute d'écart. Hein.
Oui, oui, exactement. Donc on peut pas s'intercaler pour l'instant derrière.
Oui, d'accord, c'est le contraire.
Le groupe de tête, ouais, c'est le contraire, c'est le contraire. On peut pas s'intercaler derrière, donc on est devant et ça va très vite devant ce groupe de tête qui ne chôme pas. Hein. Depuis le début de cette étape, ils passent au sprint intermédiaire au Châtelard. Ils sont juste derrière nous. C'était Cyril Gauthier qui était aux commandes il y a quelques instants, le coureur de l'équipe Europcar. Il y a deux équipes qui sont surreprésentées dans ce groupe. Il y a les Europcar avec Gauthier et Roland et il y a les Euskaltel avec Igor Anton et Mikel Astarloza. D'ailleurs, ce sont les Basques qui, la plupart du temps, se sont portés à l'avant pour emmener ce groupe. Les Basques qui sont surtout là, on a pu le remarquer lors de la dernière ascension, pour embêter peut-être Pierre Roland pour qu'il n'aille pas chercher les points pour la montagne, qu'il en laisse un petit peu pour son rival, pour son coéquipier Nievé de l'équipe Euskaltel. C'est allé très vite dans la descente tout à l'heure avec Juan Antonio Fletcher. On a pu voir ses qualités de descendeur. Donc, pour l'instant, on nous promettait une étape nerveuse pour cette étape du Semnoz. Eh bien, c'est ce que l'on voit depuis le départ d'Annecy, où la vitesse est très importante, que ce soit à l'avant de la course mais également au peloton.
Très bien, Georges. On va voir un peu ce qu'il en est donc à l'avant-garde du peloton. Fred, tu le disais tout à l'heure, les Movistar de Quintana, de Valverde et de Rui Costa sont déjà au boulot cet après-midi. On sent que les grandes opérations, les grandes manœuvres ne vont pas tarder. Enfin, peut-être un peu plus tard, mais en tous les cas, ils sont déjà à l'abordage.
Movistar qui est l'équipe de la troisième semaine, vraiment, avec Nairo Quintana qui est remonté sur le podium le jour de l'Alpe d'Huez. Rui Costa, leur portugais, qui a remporté deux étapes, on le rappelle, à Gap et au Grand Bornand. Et puis Valverde qui a fait son retour hier dans le top 10, 9e, lui qui avait lâché près de 9 minutes au classement général le jour des bordures de Saint-Amand-Montrond. Alejandro Valverde qui vraiment peut se mordre les doigts d'avoir vécu cet incident mécanique le jour des bordures. Il compte un peu moins d'un quart d'heure de retard sur Christopher Froome au général. Un quart d'heure, vous enlevez 9 minutes le jour des bordures et il aurait intégré du coup le top 5 sans aucun problème. Si, mais avec des si, on aurait pu mettre le Semnoz au pied des Champs-Élysées. Heureusement pour nous, aujourd'hui le Semnoz, le terme de cette avant-dernière étape du Tour, nous laisse un panorama absolument sublime aujourd'hui. Grand soleil sur la Haute-Savoie et je ne sais pas s'ils prendront le temps les coureurs tout à l'heure à l'arrivée, mais la vue circulaire 360 degrés est vraiment absolument idyllique. On a mis absolument les petits plats dans les grands tout au long de ce 100e Tour de France, vue sur toutes les Alpes, qu'elles soient du nord, qu'elles soient du sud, et vue surtout sur le Mont Blanc qui est un petit peu dans les nuages aujourd'hui, mais c'est souvent le cas lors des après-midi d'été. Régalez-vous, messieurs, demain on est sur les champs.
Messieurs, dames, il y a messieurs aussi les dames qui regardent le paysage. Elles regardent plus le paysage que les coureurs d'ailleurs.
Je vous parlais à vous qui avez la chance d'être ici cet après-midi.
Exactement.
Et on a une vraie pensée pleine de compassion pour les gens qui sont en train de prendre la route des vacances et qui sont peut-être dans leur voiture, qui voient les bouchons. On vous en envoie.
Qui voient les pots d'échappement des voitures qui les précèdent.
Sincèrement, on vous en envoie.
Bientôt c'est les vacances, vous allez vous régaler. Allez, la plage, allez. Bientôt la montagne pour les autres. Et nous aussi, on va y aller en vacances bientôt. Et ça nous fait plaisir. Cyril, ça fait plaisir de partir en vacances quand même.
Ah, mais moi, je ne suis...
ah ben voilà, il est déjà en vacances, il oublie d'allumer ça.
Moi, je ne suis jamais en vacances.
Non, le druide travaille toujours.
Moi, j'ai un métier, je suis retraité. Donc un retraité n'a pas de vacances.
Exactement. Cyril, la bagarre tout à l'heure. Alors, on a parlé il y a quelques instants de la bagarre pour le maillot à poids de meilleur grimpeur. Mais il y a aussi cette lutte pour le podium, pour la deuxième place, pour être premier dauphin de Chris Froome. Et je le disais tout à l'heure, ils sont 4 à prétendre à cette deuxième place, car il n'y a que 46 secondes d'écart entre Alberto Contador qui est deuxième et Rodriguez qui est cinquième de ce Tour de France. Donc tout est possible.
47 secondes, donc tout est possible. Alors ça ne sera pas simple, parce que je ne pense pas que Contador ait envie de se faire sortir du podium, mais il risque d'avoir quand même quelques sueurs froides avec Quintana qui, dans les ascensions sur l'ensemble de ce tour, l'a toujours mis en difficulté, a toujours lâché Contador. Et quand le jour où il ne l'a pas lâché, c'est qu'il avait déjà fait de nombreux kilomètres devant à l'attaque. Donc Contador doit, à mon avis, être quand même un petit peu inquiet compte tenu des qualités de Quintana. Et puis il y a Rodriguez qui est à 47 secondes. C'est une arrivée pour lui aujourd'hui.
Exactement. attention à lui, il est cinquième du général ce matin, mais vraiment l'arrivée ici au Semnoz et son état de forme allant crescendo peut vraiment faciliter ses dessins à Joaquin Rodriguez, qui a plusieurs fois montré qu'en troisième semaine il flanchait, notamment sur la Vuelta l'an passé lorsqu'il avait été débordé par Alberto Contador. Cette fois il a vécu un printemps ciblé, visé, tendu vers le Tour de France. Il a peut-être un peu trop retardé sa préparation, il n'a pas été vraiment présent dans les Pyrénées. S'il avait tenu la forme qu'il tient dans les Alpes cette semaine, il aurait à coup sûr assuré une place sur le podium d'ores et déjà, mais la lutte est toujours vive et Rodriguez pourrait effectivement être l'invité surprise sur le podium demain sur les Champs.
Alors, il pourrait y avoir une autre surprise, et là elle serait, je ne vais pas dire dramatique, on est que dans le sport, c'est que Contador et Cruziger se fassent jeter du podium pour être remplacés par Quintana et Rodriguez.
Et pourquoi pas,
c'est un scénario possible.
Oui, parce que les Saxos semblent quand même un petit peu en deçà de leur performance d'il y a quelques jours. On sent qu'ils commencent à payer les efforts consentis. Ils avaient été souverains il y a de cela quelques jours, mais là c'est un peu plus compliqué, ils sont un peu plus dans le dur, Fred, hein.
Oui, mais c'est le prix à payer lorsqu'on se lance dans de grandes offensives. On les a vus effectivement dans la plaine, souvenez-vous, le jour de Saint-Amand-Montrond, c'est eux qui mettent la minute entre eux et Christopher Froome. Ce ne sont pas des aléas, des incidents mécaniques, c'est bien leur extraordinaire débauche d'énergie qui avait mis le bazar sur la route du Cher. Mais c'est vrai que l'attaque dans la descente de Sarenne, puis la prise en charge des étapes, les responsabilités prises par cette équipe Saxo-Tinkoff qui a couru vraiment de la manière la plus audacieuse qui soit, et on les en remercie, et bien tout ça se paye, surtout sur un parcours aussi exigeant que celui du 100e Tour de France.
On va retourner sur la moto, ils voient de beaux paysages aujourd'hui, Georges Quirino et Marco, ils sont beaux, ils sont tout bronzés avec un magnifique bronzage cycliste, ils vont faire fureur sur les plages dans quelques jours. Messieurs, en tous les cas, vous régalez les yeux.
J'ai un doute. Oui, effectivement, dans le massif des Bauges, c'est vrai que c'est très très beau depuis le début de cette étape. Allez, on est devant l'échappée qui vient d'aborder la troisième difficulté de la journée, la côte d'Allon-le-Vieux, classée en troisième catégorie. 6 km à 4% de pente moyenne. Le groupe de 10 qui s'est étiré et le tempo qui est en ce moment assuré par Cyril Gauthier depuis le pied de cette ascension. Cyril Gauthier, le coureur de l'équipe Europcar, coéquipier de Pierre Roland qui est en quatrième position, juste derrière les deux coureurs au maillot orange, les deux coureurs de l'équipe Euskaltel, Igor Anton et Mikel Astarloza, qui sont juste derrière le coureur de l'équipe Europcar et qui surveille Pierre Roland avec son maillot à pois dans les premières rampes de cette ascension, toujours sous un grand soleil et avec un public très nombreux dans les premiers kilomètres de cette ascension.
Pierre Roland, maillot à pois sur le dos, mais on le rappelle, pas leader du classement de la montagne pour autant. Au départ de l'étape, il était toujours devancé par Christopher Froome pour un point. C'est peut-être ce qui l'a poussé aujourd'hui à la jouer sobre sur la tenue vestimentaire. On l'avait connu avec tout l'attirail à pois, que ce soit le casque, le maillot, le cuissard, le vélo. Cette fois, il s'est contenté d'endosser le maillot officiel remis par les organisateurs. Profil bas pour Pierre Roland, qui ne s'est pas transformé en homme varicelleux aujourd'hui.
Oui, effectivement, il est resté sobre aujourd'hui, Pierre Roland, mais il aimerait bien ramener ce maillot demain. Et s'il franchit tout à l'heure le Semnoz devant Chris Froome, Quintana ou Nieve, eh bien il sera sûr de ramener ce maillot à Paris. Mais on le disait tout à l'heure, ce sera très compliqué pour lui. Fred, on fait un nouveau point de la situation, nouveau top course avant de s'absenter quelques instants, puis de revenir sur la route du Tour, le top course.
RMC Top Course.
Avec la course dans la troisième difficulté du jour, il en restera trois. Une fois passé au sommet de la côte d'Allon-le-Vieux, on est dans le département de la Savoie, au cœur du splendide et verdoyant massif des Bauges. 10 coureurs à l'avant de la course, à 86 km de l'arrivée. Il restera dans quelques kilomètres le Mont Revard, puis l'ascension hors catégorie du Semnoz. 10 coureurs partis dès le début de course à la sortie d'Amcy. 3 Français, Pierre Roland qui chasse les points de la montagne pour le maillot de meilleur grimpeur, ses compatriotes Cyril Gauthier, son équipier chez Europcar, et Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, également présent dans ce groupe de 10, les deux Allemands Burgaard et Voigt, l'Espagnol Flecha, le Russe Pavel Brut, les deux Basques Anton et Astarloza et l'Australien Simon Clark. À 86 km de l'arrivée, ces 10 là ne comptent qu'une minute 10 d'avance sur un peloton qui stabilise l'écart matin. Un peloton toujours conduit par les Movistar de Quintana, troisième du général, qui vise la place de dauphin de Christopher Froome, là-haut, tout en haut du Semnoz.
Très bien Fred, 86 km donc encore à parcourir. 1 minute 12 d'avance pour le groupe de tête dont on vous rappelle qu'il est composé de Pierre Roland notamment et de Cyril Gauthier. Les Français, on se retrouve, et de Christophe Ribon également. Allez, on se retrouve dans quelques instants, toujours sur la route du Tour en direction du Semnoz, avant-dernière étape de ce Tour de France.
Intégral Tour avec le Parisien et aujourd'hui en France, Christophe Cessieux.
L'avant-dernière étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, dernière étape de montagne entre Annecy et le Semnoz. 125 km dans le massif des Bauches, où le chaud soleil de Haute-Savoie est sur une route qui ne cesse de s'élever et de s'abaisser avec pas mal de difficultés aujourd'hui. Bon, les principales sont encore à venir. Le Mont-Revard, tout à l'heure, classé en première catégorie, surtout l'ascension du Semnoz, classé hors catégorie, là où sera jugé l'arrivée de cette avant-dernière étape du Tour de France. En attendant, il reste 83 km à parcourir. Nous sommes dans les premières côtes de la journée, Fred, des côtelettes, mais qui font mal, évidemment. Après 3 semaines de course, on va faire un nouveau point sur cette course. Cette avant-dernière étape, c'est le Top Course.
RMC Top Course.
Avec toujours 10 hommes en tête qui sont sortis tout à l'heure du peloton à la sortie d'Annecy, direction le Semnoz. Oh, c'est juste au-dessus du magnifique lac d'Annecy, le Semnoz, mais ils ont droit à un grand crochet par le non moins sublime massif des Bauges. 10 coureurs à l'avant avec 3 Français. Pierre Roland qui est virtuellement en ce moment meilleur grimpeur du Tour, mais il reste le Mont-Revard et l'ascension hors catégorie du Semnoz, et tout sera refaire au pied du Semnoz. Les comptes seront bons seulement arrivé là-haut. Pierre Roland est donc dans cette échappée avec son équipier d'Europe Car, Cyril Gauthier, également présent Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, et puis les Allemands Burgart et Voigt, l'Espagnol Flecha et ses compatriotes basques Anton et Arstarloza, le Russe Pavel Brut est également là pour Katiusha, et Simon Clark, l'Australien de l'équipe Orica Green Edge. Ils s'emploient ces 10 là, mais ne parviennent pas à creuser l'écart sur un peloton en file indienne, le peloton toujours conduit par les maillots bleus de l'équipe Movistar. Movistar qui compte sur Valverde, sur Rui Costa, mais surtout sur Quintana, le maillot blanc de meilleur jeune aujourd'hui, troisième du général ce matin et qui vise la deuxième. Il va tenter de subtiliser la place de dauphin de Christopher Froome à Alberto Contador tout à l'heure.
Pierre Roland qui se trouve avec le groupe de tête à 1 km de la fin de ce col de l'Échaud. On va voir dans quelques instants.
La côte d'Aillon-le-Vieux.
Ah, j'étais resté sur la côte de l'Échaud. Le col de l'Échaud.
Hors délai.
Tout à l'heure. Je suis hors délai. Je suis dans la bordure, dans la caillasse, si ce n'est dans le précipice dans quelques instants. Donc la côte d'Aillon-le-Vieux, classée en troisième catégorie. Pierre Roland qui, on vous le rappelle, est désormais maillot à poids virtuel. Il est maillot à poids aujourd'hui puisqu'on lui a remis, mais enfin, il était devancé ce matin d'un point par Chris Froome. Mais là, depuis qu'il a gravi les ascensions du jour en tête, il a pris des points et on va voir s'il conforte son maillot dans quelques instants, même si on le sait, on l'a dit tout à l'heure, Cyril, les côtes de troisième catégorie ne sont pas très bien récompensées en termes de points.
Hein. Oui, non, effectivement, troisième catégorie, c'est 2 points et 1 point. Et si on fait le total des points que pourrait prendre au maximum Pierre Roland par rapport aux 2 premiers classements de la montagne, il peut en prendre en 19. Donc 19, ça le mettrait, il faudrait que Chris Froome termine à la 7e place.
Là on est vraiment dans l'hypothétique, et là on tire des plans sur la comète. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas moins de 10 points au Mont-Revard, c'est bien ça, et surtout 50 au Semnoz, puisqu'un col hors catégorie dans les barèmes du Tour de France, c'est 25 points, et puisque l'arrivée est jugée en haut de ce col hors catégorie du Semnoz, près de 11 km d'ascension à 8,5% de déclivité, puisque c'est arrivé au sommet, les points sont doublés, c'est-à-dire que vraiment les comptes seront presque mis à zéro au pied de l'ascension, juste sur les rives du lac d'Annecy. Magnifique finale en perspective.
Comme les comptes seront sans doute aussi remis quasiment à zéro tout à l'heure pour le classement général, pour monter sur le podium de ce Tour de France. C'est important, Cyril. Évidemment, le plus important, c'est de remporter le Tour de France, mais être présent sur le podium quand on est coureur du Tour de France, c'est un rêve. Et notamment quand on est un jeune coureur comme Quintana, par exemple.
Il faut être sur le podium. Ouais. Il faut être sur le podium. Le podium, c'est une photo qui va rester dans l'histoire. Être quatrième. Vous n'êtes pas sous l'histoire. Aux Jeux Olympiques, quatrième, ça veut rien dire. C'est la médaille en chocolat, comme on dit. C'est la plus mauvaise place. Et donc, il faut Il faut donc absolument que ces coureurs-là se battent dans cette dernière ascension pour avoir leur photo pour l'éternité.
Ouais, alors qui monte sur le podium? Il y a les trois premiers du classement général, tous les maillots distinctifs, t'as le maillot vert, le maillot blanc, le maillot à pois, et puis il y a aussi l'équipe
qui remporte le classement par équipe.
Et il y a le super combatif aussi du tour qui monte sur le podium.
Ah, c'est une autre récompense, oui, super combatif. Oui. Mais ceci dit, j'ai été super combatif du tour et j'en ai pas un souvenir extraordinaire.
Tu n'as pas gardé la photo.
Non.
Fred.
Pierre Roland vient de passer en tête à la troisième difficulté du jour, la côte d'Aillon-le-Vieux, pris en chasse par Christophe Riblon, qui lui aussi est intéressé à ce classement de la montagne. Christophe Riblon qui a fait le plein de gros points le jour de l'Alpe d'Huez et qui ce matin était cinquième de ce classement, derrière Froome, Roland, Nieves, Quintana. C'est-à-dire que Riblon et Roland se livrent une guerre nationale, une guerre franco-française pour ce maillot à pois. On leur souhaite évidemment de ne pas être réglé, doublé par Christopher Froome, Nairo Quintana ou Mikel Nieves tout à l'heure en haut du Semnoz dans ce classement de la montagne.
Et l'écart, Fred, qui est descendu sous la minute pour nos hommes de tête et donc pour Roland, Riblon et les autres, plus que combien?
55 secondes pour le groupe de 10 échappés sur le peloton, toujours mené à très vive allure par l'équipe Movistar. Est-ce que vous avez vu cet écho ce matin dans le journal qui mentionnait le changement de nationalité de l'équipe Movistar? Le propriétaire de l'équipe, vous savez, une équipe a un titre, un nom, un sponsor, mais elle a une licence pour être enregistrée auprès de l'UCI, et la licence est la propriété d'une entreprise, une entreprise qui, pour Movistar, est enregistrée en Espagne. Elle devrait bouger de pays et elle devrait déménager vers le Luxembourg en 2014, ce qui mettrait les contrats caducs, parce qu'un contrat avec un coureur est établi entre le siège, le patron de l'équipe qui est établi dans un certain pays, et si on change le lieu de domiciliation de l'équipe, eh bien il faut tout renégocier. Cyril, est-ce que tu y crois, ça, au fait qu'il faudra refaire des contrats pour tout le monde, et du coup fin 2013 tous les coureurs de l'équipe Movistar seront libres de tout contrat?
Alors c'est plus compliqué que ça, parce que si vous avez un contrat de 2 ans, votre employeur sera obligé de vous payer l'année suivante,
bien sûr.
Donc c'est ceux qui sont en fin de contrat qui vont renégocier leur contrat, mais ça aurait été vrai s'ils étaient restés en Espagne. Maintenant, négocier des contrats au Luxembourg par rapport je pense aux lois fiscales espagnoles, il doit y avoir des avantages pour tout le monde.
Mais il semble que Movistar se tire peut-être une balle dans le pied. Il se passe quelque chose à l'avant avec une crevaison pour l'un des 10 coureurs échappés. C'est l'allemand Markus Burgard qui est dépanné en ce moment par la voiture neutre. Markus Burgard qui aura bien du mal à revenir sur ses 9 anciens compagnons d'échappés, parce que le peloton est désormais pointé à moins de 50 secondes.
Eh oui, il a été dépanné, donc on lui a mis droit. Alors est-ce que ça change quelque chose? C'est une voiture neutre, c'est-à-dire qu'elle est équipée de roues
standard.
Hein, voilà, des roues standard, mais ça s'adapte à n'importe quel vélo, il n'y a pas de souci.
Oui, hein, tout est standard à ce niveau-là. Oui.
Ouais, donc il n'y a pas de souci pour Burgard.
Ça va passer un peu moins bien selon que l'on soit équipé par Shimano, Campagnolo ou SRAM, pour ne pas les nommer, mais effectivement, ils ont quand même eu la décence, les fabricants qui ont vraiment le vice de multiplier les outils pour être équipés de la meilleure des manières. Aujourd'hui, il faut un attirail absolument incroyable, parce qu'il n'y a plus de clé standard. Là, rassurez-vous, pour les coureurs pro, tout est fait pour que les roues de dépannage montent sur n'importe quelle monture.
Et est-ce que Cyril, est-ce que Markus Burgard, là, qui a donc crevé, qui a donc changé de roue, qui a mis une roue neutre, est-ce que son équipe va lui remettre une roue
le problème, c'est au niveau des indexations, au niveau du dérailleur, parce que bon, vous savez, maintenant les dérailleurs sont pratiquement automatiques ou semi-automatiques, je ne parle pas
électriques, même
et même électriques, donc il y a des petits règlements que l'on doit peut-être éventuellement bouger. À ce moment-là, on va changer de roue quand ça sera un peu plus calme, mais sinon tout passe, hein.
Très bien. Très bien. Nous sommes à combien? 78 km de l'arrivée. On va s'interrompre dans quelques instants pour les infos de 15h. En attendant, nous allons refaire un point complet de la situation, car on se rapproche de l'arrivée. On rappelle qu'un groupe est toujours devant, un groupe dans lequel on retrouve plusieurs Français. C'est le Top Course, Fred.
RMC Top Course.
Effectivement, trois Français lancés dans cette échappée du jour qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas la bonne échappée du jour, comme l'appellent les coureurs. Elle ne devrait pas rallier victorieusement le sommet du Semnoz, là-haut au-dessus d'Annecy, où nous nous trouvons, où le panorama est absolument magnifique. 10 coureurs, dont Pierre Roland, lancé à la chasse au point du meilleur grimpeur. Cyril Gauthier, son coéquipier breton de l'équipe Europcar, est également présent dans cette échappée. Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, lui aussi intéressé par le classement de la montagne, est également échappé. Il y a là l'Allemand Voigt, l'Espagnol Flecha, Pavel Brut le Russe, les deux Basques Anton et Astarloza, Simon Clark l'Australien. 77 km 500 de l'arrivée, il reste trois difficultés dont le Mont Revard et l'ascension vers le Semnoz, et l'écart est stabilisé aux alentours de 50 secondes. Le peloton est emmené toujours par les coéquipiers de Quintana, les coureurs de la formation Movistar.
Très bien, 14h55, on se retrouve dans quelques instants, juste après les infos de 15h, pour vivre évidemment le final de cette avant-dernière étape. La grande bagarre aura lieu, on vous le certifie, tout à l'heure, dans l'ascension du Mont Semnoz. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour.
Le dernier grand moment de ce Tour de France est aujourd'hui sur les routes entre Annecy et le Semnoz. 20e étape de ce Tour de France, avant-dernière étape et dernière étape de montagne, avec notamment tout à l'heure l'ascension du Semnoz. Il y a beaucoup de choses à aller chercher encore aujourd'hui. Le maillot de la montagne et également le podium de ce Tour de France. On va tout de suite faire un nouveau point sur la situation. On le rappelle, depuis le départ de cette étape, il y a un groupe qui fait route en tête justement. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
Ils sont toujours 10 à l'avant de la course, avec à l'instant la quatrième côte de la difficulté, le col de la journée, pardon, le col des Prés, franchi en tête à nouveau par Pierre Roland, qui rajoute 2 points à son petit pécule pour le classement de la montagne. Il compte 1 minute 15, ce groupe de 10 coureurs, à 73 km, 1:15 d'avance sur un peloton qui les maintient à portée de fusil. Trois Français, Pierre Roland, donc maillot à poids sur le dos, Cyril Gauthier, son équipier de l'équipe Europcar, Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, et puis les Allemands Burgart et Voigt, l'Espagnol Flecha, le Russe Pavel Brut, les Basques Igor Anton et Mikel Astarloza, et l'Australien Simon Clark. Le peloton toujours conduit dans le massif des Bauges, très ensoleillé aujourd'hui, conduit par les Movistar de Valverde, de Rui Costa, mais surtout de Nairo Quintana. Quintana qui a le classement général en tête aujourd'hui. Il reste le Mont Revard à escalader, classé en première catégorie, et le terrible Semnoz, plus de 10 km d'ascension à plus de 8,5% de déclivité, du grand spectacle en perspective au-dessus du lac d'Annecy.
Et la bagarre pour le classement de la montagne pour ce fameux maillot blanc à pois rouge fait rage aujourd'hui sur les routes de cette 20e étape. On a vu il y a quelques instants, Cyril, une drôle de bagarre pour aller chercher 2 petits points et 1 petit point au sommet de ce col, au passage de ce col des Prés, avec notamment Pierre Roland qui risque de perdre le point acquis il y a quelques instants. Cyril, explique-nous.
Oui, puisque dans le sprint, eh bien, il y avait Cyril Gauthier qui emmenait donc Pierre Roland, et dans le sillage Igor Anton. Et quand Igor Anton a attaqué, Pierre Roland est passé de la gauche à la droite. Ils ont failli d'ailleurs chuter tous les deux en percutant, voire Anton a failli percuter un spectateur, et donc par voie de conséquence, ils seraient allés tous les deux par terre. Alors est-ce que les commissaires vont prendre la décision de déclasser Pierre Roland ou pas? Ça, il faudra voir ce que les commissaires vont dire, car il est bien évident que Igor Anton, s'il fait le sprint, ça n'est pas par hasard, c'est tout simplement pour priver de points Pierre Roland, puisque Nieve, lui, a actuellement 98 points au classement de la montagne, et qu'il est un candidat au classement
et
final.
C'est son équipier qui va chercher les points pour éviter
Et voilà, sur ce qu'on a vu, logiquement, il doit y avoir des classements.
Très bien, bah, Pierre Roland, j'espère qu'il ne lui manquera pas un petit point ce soir.
Cavendish n'ayant pas été déclassé à Saint-Malo.
Oui, c'est vrai, d'un autre côté, hein, qui donnait des coups d'épaule ou des coups de tête, c'est vrai qu'on n'a pas déclassé Cavendish. Donc on va voir si les commissaires font preuve de la même mansuétude à l'égard de Pierre Roland. On va retrouver la moto AMC, elle est dans la descente du col des Prés avec Georges Quirino, évidemment, derrière son fidèle motard Marc Combes. Georges.
Oui, dans cette descente du col des Prés, effectivement, qui n'est pas très technique. Hein. On est sur des routes assez larges, donc sans poser de problème même à Pierre Roland, qui n'est pas forcément un très bon descendeur. On était au contact des hommes de tête il y a quelques instants dans l'ascension, une ascension où c'était une succession de lacets, et où donc le peloton, qui n'est qu'à un peu plus d'une minute derrière, pouvait apercevoir un petit peu en hauteur ce groupe de tête. C'est assez rigolo de voir que les échappés regardaient à gauche, ils pouvaient voir l'avant-garde du peloton, alors qu'à l'avant-garde du peloton, on regardait à droite vers le haut, et on pouvait voir les échappés. Ça permet de s'étalonner parfaitement pour gérer l'écart avec l'armada bleu marine des Movistar qui était toujours présente à l'avant du peloton, avec le maillot blanc de Nairo Quintana juste derrière tous ses coéquipiers. Ce n'est pas un hasard de voir les Movistar à l'avant aujourd'hui, puisque hier, en discutant avec Eusebio Unzué, le manager général de cette équipe Movistar, il avait promis qu'aujourd'hui son équipe va faire un spectaculo, elle va faire le spectacle, pour vous faire la traduction. Donc pour l'instant ils se portent à l'avant, et leur attitude montre en tout cas qu'ils vont essayer de respecter les règles et les promesses de leur manager tout à l'heure.
Et on va en parler dans quelques instants de Nairo Quintana, qui est la véritable révélation de ce Tour de France. Le grand public a appris à le connaître, même si dans le peloton et dans le milieu, Cyril, on le connaissait un peu depuis quelques temps, parce que c'est le successeur de Lucho Herrera, grand grimpeur colombien des années 80.
Oui, on l'a découvert en Europe, on l'a découvert il y a 2 ans lorsqu'il a remporté tout simplement le Tour de l'Avenir. Et puis on l'a vu remporter également une très très belle étape l'an dernier sur le Critérium du Dauphiné, une étape qui arrivait à Morzine avec la montée de Jouplane. Et là, il a fait un véritable numéro, il est parti seul dans la montée de Jouplane. Dans la descente, eh bien, il a résisté, il a fait une superbe descente, il a résisté au retour du peloton et remporté cette étape. À partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà un garçon qu'il va falloir surveiller de près. Et puis il confirme tout simplement sur ce Tour de France ses immenses qualités de grimpeur.
Tiens, on va écouter justement Quintana rendre hommage à son prédécesseur dans la montagne colombienne, Lucho Herrera. Et vous allez entendre les radio-reporters comme des années 80 qui se régalaient évidemment lors des victoires de Lucho Herrera, notamment une victoire, me semble-t-il, c'était à Jouplane ou à l'Alpe d'Huez, Cyril? Jouplane plutôt, la principale victoire de Herrera.
L'Alpe d'Huez,
me semble-t-il, en 85. Tiens, on écoute Quintana et derrière vous allez entendre ce que ça donnait à l'époque en 1985 lors des victoires de Lucho Herrera.
Y atención que Nairo, parcialmente, de manera extraoficial, es tercero en la general del Tour de Francia. Así que hace historia Nairo Quintana en Alpe d'Huez. Un colombiano está consiguiendo meterse en el podio del Tour de Francia. De nuevo el ciclismo colombiano. En el 84, Lucho Herrera fue ganador de esta fracción.
Extraordinaire son d'archives. C'était dans les années 80. Ils étaient dingues, ces radio-reporters colombiens, à la manière des commentateurs brésiliens du foot.
Dingue,
mais moi j'adore. Moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, Fred. Tu vas prendre des leçons en Colombie, tu vas revenir, tu vas nous mettre le feu comme ça, non?
Presque. La victoire de Lucho Herrera à l'Alpe d'Huez, c'était en 84. Et Herrera
84.
Qui avait confirmé à Morzine Avoria l'année suivante en 85, et à Saint-Étienne également. Lucho Herrera, qui était avec Fabio Parra vraiment l'emblème du cyclisme colombien. Il y en a eu d'autres évidemment qui ont suivi, mais qui n'ont jamais eu l'aura d'Herrera.
Il y a eu Fabio Parra notamment.
C'est ce que je viens de dire.
Fabio Parra qui était lui aussi un sacré grimpeur. Lucho Herrera, vainqueur du classement de la montagne sur le Tour de France à 2 reprises, il a également remporté la Vuelta et beaucoup de classements de la montagne. Ce classement de la montagne, ce maillot blanc à pois rouge qui fait rêver Quintana, on en parlera dans quelques instants.
Oui, et Fred, qui fut souvent longtemps sponsorisé, ce maillot de la montagne, par la marque de café des Colombia. C'est vrai qu'ils en avaient acquis pris quasiment la propriété de ce maillot à poils colombien.
Ouais. Et puis il y a eu un long trou, Cyril. On n'a plus vu de grands grimpeurs colombiens dans les années 90, dans les années 2000. Et là, ils reviennent en force. Il n'y a pas que Quintana. Il y a d'autres jeunes coureurs qui sont
à la Sky déjà avec Henao et
Urán
et Rigoberto Urán. Ouais. Non, ils ont une génération absolument extraordinaire.
Très bien. On va s'interrompre quelques instants et partir pour le quintet du jour avec Sébastien Lara. Salut Seb.
Salut Chris, à Enghien où il fait la température de fusion du cobalt cet après-midi sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Le dernier des trois tours de piste puisqu'aujourd'hui il y a 4125 mètres à couvrir pour ce prix de Buenos Aires. Le 2 était non partant et on a disqualifié l'as Picardo. Il y a un tour, c'est le 12 Raja d'Abbaye qui est venu prendre l'avantage. Il était pourtant en dernière position et Jean-Michel Bazir a décidé d'avancer pour passer devant les tribunes. Il devance pour l'instant dans la ligne d'en face le numéro 9 Rapide du Dijon aux avant-postes depuis le départ. Le 10 Rire Mutin, Raja de Venel, c'est le 6, est également au contact des premiers, accompagné par le 4 Reggae Durzi qui s'est sorti de l'emprise de la corde où il était depuis le départ de la course. Le 3 Récital Carizé est également dans le sillage des animateurs. Bientôt l'ultime tournant abordé par les 15 concurrents de ce quintet avec toujours Jean-Michel Bazir qui pour l'instant maîtrise avec le numéro 12 Raja de l'Abbaye qui va aborder le dernier tournant en tête avec à son extérieur le numéro 9 Rapide du Dijon et Eric Raffin qui va essayer de lui mettre la pression, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est bien luné. Raja de l'Abbaye, il reste sur deux disqualifications et pourtant il a l'avantage à la sortie du dernier tournant et j'ai vraiment l'impression que Jean-Michel Bazir pour l'instant n'a rien demandé à son partenaire. Le numéro 12 Raja de l'Abbaye qui aborde la longue ligne droite d'Enghien en tête, attaqué maintenant par le numéro 9 c'est Rapide du Dijon et Eric Raffin qui essaye de revenir sur le fuyard, mais pour l'instant Jean-Michel Bazir a toujours l'avantage. Oh là là, dans son sillage on est malheureux avec le 10 Rire Mutin et Pierre Vercruz qui aimait bien sortir, mais pour l'instant le 12 Raja de l'Abbaye qui a l'avantage. Raja de l'Abbaye qui va filer vers un facile succès de 3 longueurs devant le 10 Rire Mutin qui va certainement s'emparer de la deuxième place aux dépens du numéro 11 c'est Twist des Caillons. On a bien fini avec le 13 c'est Carlos comme d'habitude qui a fourni une belle fin de course et le 8 Sancho Turgo qui devrait certainement compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Victoire du 12 Raja de l'Abbaye, Jean-Michel Bazir, le Zidane des courses qui s'impose à 6 contre 1 aujourd'hui devant le 10 Rire Mutin, 4 contre 1. La troisième pour le 11 Twist des Caillons qui était à la cote de 12 contre 1 devant le 13 Carlos, 12 contre 1 et le 8 Sancho Turgo, 17 contre 1. 12, 10, 11, 13 et 8 pour l'arrivée provisoire. Bien entendu, il peut toujours y avoir une enquête au trot, mon cher Christophe.
Merci Sébastien, à tout à l'heure.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On le tient, notre reporter colombien pour les arrivées du tour.
Ah, Sébastien, ouais.
Seb Darras, bien sûr.
On va le faire venir sur le Tour de France. Il commande bien les sprints. Les températures de fusion du cobalt, Seb, non? 1495 degrés. J'ai été vérifié quand même. Tu m'as.
Je suis dans une cabine en verre ici et je te casserai pas que, voilà, j'ai bu 14 litres d'eau depuis tout à l'heure.
Très bien. Ça te fait pas de mal pour une fois. Tiens. Et à tout à l'heure, Sébastien. 85 km, 65 km de l'arrivée. 65, oui.
Et c'est lui qui dit ça. Et c'est lui qui le dit.
65 km de l'arrivée, Fred, s'il te plaît. On ne va pas tout dévoiler non plus sur ce Tour de France. Ce n'est pas parce que c'est l'avant-dernière étape qu'il faut balancer tous les dossiers. 65 km de l'arrivée, donc, et toujours nos 10 hommes en tête qui sont dans l'ascension de l'avant-dernière difficulté de la journée. Le Mont Revard, bien connu de Cyril Guimard.
Et comment? Le Mont Revard, effectivement, classé en première catégorie, plus par sa longueur que par sa raideur. 16 km d'ascension à un peu plus de 5,5% de déclivité. Effectivement, un groupe de 10 est toujours à l'avant et vient d'entamer les premières rampes de ce Mont Revard très ensoleillé aujourd'hui sur les routes de Savoie. Pierre Roland, Cyril Gauthier et Christophe Riblon sont toujours les trois Français à l'avant, accompagnés des Allemands Burgart et Voigt, de l'Espagnol Flecha, du Russe Pavel Brut, des Basques Anton et Astarloza et de l'Australien Simon Clark. Le peloton est toujours, et c'est le cas depuis la sortie d'Annecy tout à l'heure, toujours conduit par les Movistar de Nairo Quintana, meilleur jeune du Tour de France qui vise, on le rappelle, la deuxième place du classement général. Et puisqu'on parle des jeunes coureurs, on va tirer un coup de chapeau à un coureur français qui vient d'être sacré champion d'Europe junior. C'est Franck Bonamour, le fils d'Yves Bonamour, qui a été sacré à Olomouc en République tchèque. Nouvelle victoire d'un jeune coureur français. Il y a quelques jours, un Français avait décroché la médaille de bronze lors du contre la montre junior, me semble-t-il. C'était Rémi Cavagna. On a une génération de juniors espoirs qui arrive pleine balle. Oui, il y a des Slovaques, oui, il y a des Hongrois, oui, il y a des Russes, oui, il y a des Luxembourgeois ou des Belges qui brillent, mais on a vraiment l'impression qu'on a une génération dorée qui arrive et qui pourrait aller nous faire de terribles possible de fabuleux exploits sur les routes du Tour dans les 5-10 ans à venir.
Le successeur de Bernard Hinault est-il enfin né, Cyril Guimard?
Oui, et chez les féminines, il faut aussi...
Ah oui, chez les féminines, elle est née, ouais.
Oui, Cyril est beaucoup plus sur les féminines. Hein.
Non, mais tout simplement parce que je connais cette jeune cycliste qui est originaire et qui vit au Gavre, dans la forêt du Gavre, donc à trentaine de kilomètres de chez moi, et dont le papa nous écoute tous les jours sur son tracteur. Il est agriculteur.
Très bien.
Ça a été quand il était jeune aussi. Voilà. Donc on lui fait une petite carte postale, et je crois que papa et maman doivent être très très heureux de cette médaille d'or pour Séverine Hérault.
Très bien. La question, donc, de savoir si le successeur de Bernard Hinault est enfin né, ça fait un moment qu'on attend,
oui,
quand
mais
même.
Peut-être que le successeur ou la successrice de Jeannie Longo est née.
Ah oui, d'accord. Voilà. Là, tu veux pas t'engager sur le terrain masculin. Hein.
Non, sur le terrain féminin, peut-être.
D'accord. Non, mais Cyril, pour redevenir sérieux, s'il te plaît, non.
Ah, comment la victoire de Séverine n'est
mais
pas
non,
quelque
mais
chose de
évidemment,
sérieux.
Mais là, on est sur le Tour de France masculin, même si on a vu qu'il y a quelques jours, certaines grandes championnes du peloton féminin avaient même fait la demande pour avoir une équipe féminine dans le Tour.
Là, on a vu Thierry Bourguignon qui n'était pas du tout d'accord.
Mais il est macho, Thierry, il est macho. Alors que Cyril, toi, je sais que tu serais largement partant pour avoir une équipe féminine. Mais bon, en attendant, on est sur le Tour de France masculin pour le moment. C'est vrai qu'on a pas mal de jeunes Français qui marchent bien. On s'en est rendu compte l'an dernier avec Thibaut Pinot, avec Pierre Roland. On a vu aussi aux Jeux Olympiques Brian Coquart qui a confirmé puisqu'il est néo-professionnel et qu'il a remporté pas mal de victoires cette année. Tout ça, ce sont surtout des sprinteurs ou des grimpeurs. Mais est-ce qu'on a un coureur complet là, en train de mûrir et qui va nous régaler un jour et remporter enfin ce Tour de France? C'est quand la dernière victoire de Bernard Hinault? 85?
Je m'en rappelle plus. J'étais né ou pas?
Ouais. 1985.
85, oui, puisque 86, c'est Greg LeMond. Oui, mais pour moi, Greg LeMond, il faisait partie des Français.
Pas faux. Non, pour répondre à la question, il y a une génération dorée avec beaucoup d'ailleurs de fils de Franck Bonamour, tout frais champion d'Europe junior, et le fils d'Yves. Il y a le fils de Laurent Madouas. Il y a le fils de Francis Moreau. Il y a le fils de Christophe Hermenot,
tout à fait.
Philippe,
oui.
Hermenot, pardon.
Et même Pascal Lino.
Oui, oui. On a des fils d'eux qui arrivent plein pétrole et qui devraient prendre un relais de leurs aînés, de leurs parents, encore plus glorieux, encore plus doré que ne le furent leurs parents.
Très bien. Est-ce que dans le peloton actuel, Cyril, il y a un garçon, un Français, capable un jour de succéder à Bradley Wiggins, à Chris Froome et à tous les autres, et notamment surtout aux Français, à Bernard Hinault et Laurent Fignon, qui sont les deux derniers vainqueurs du Tour de France côté français? Est-ce qu'aujourd'hui un Pinot, un Roland, un Coquart ou des gens comme ça sont...
Coquart, il est dans le... On a la chance d'ailleurs, c'est d'avoir trois beaux sprinters avec Coquart, Boigny et Domard. Pour le classement général du Tour de France, je vais prendre...
L'année dernière, on s'était enthousiasmé.
Ouais, je vais prendre un petit joker en disant Thibaut Pinot, oui, il y a le potentiel pour, mais il y a quand même beaucoup de carences dans son jeu pour qu'on puisse dire oui, il peut être sur le podium, il peut gagner le Tour. Pour cela, il faut qu'il s'améliore contre la montre, il faut surtout qu'on lui enlève les freins, quoi.
Et il y en a un, qui arrive, hein.
C'est Bardet.
Et Romain Bardet, 23 ans.
Premier Français du Tour, il est 16e.
Qui est 16e ce matin. Romain Bardet qui semble avoir la très grande classe. Il était encore échappé hier malgré une angine. Il a tenu bon. Au-delà de sa classe, il semble avoir un caractère, une volonté incroyable pour un coureur de son âge. 23 ans seulement, néophyte du Tour et qui était 16e ce matin. On fera les comptes tout à l'heure en haut du Semnoz. Il y a un autre coureur qui ne fait pas le Tour cette année, mais qui est le dernier vainqueur en titre du Tour de l'avenir. C'est Warren Barguil, qui fait partie de l'équipe Argo Shimano, et lui aussi a l'air de savoir tout faire. Voilà un coureur complet avec une vraie allure. Lui aussi a du caractère. On aura l'occasion de reparler.
Très bien, Fred, avant de s'interrompre quelques instants, on va reprendre le fil de la course. Nous sommes à l'avant de la course, justement, à moins de 62 km de l'arrivée, et ça commence à bouger dans le groupe de tête.
RMC Top Course.
Avec effectivement une accélération dans les premières pentes du Mont Revard à 62 km de l'arrivée, un col classé en première catégorie. L'Allemand vétéran Jens Voigt, coureur de l'équipe RadioShack, est en train de sonner les cloches de ce groupe de 10 où l'on trouve, on vous le rappelle, trois Français: Pierre Roland, Cyril Gauthier, Christophe Riblon. Il emmène dans sa roue Cyril Gauthier, le Breton, Simon Clark, l'Australien de Orica Green Edge. Il y a là également Pavel Brut, le Russe, et Pierre Roland, maillot à pois sur le dos, qui est en train de se retourner en cinquième position et qui va, semble-t-il, décrocher. Pierre Roland qui paye ses efforts de la veille en direction du Grand Bornand. Il vient de se relever, de se mettre en danseuse, mais pour baisser les dents, pour baisser la garde. Ils sont quatre à l'avant de la course, à 61 km de l'arrivée. Jens Voigt, l'Allemand, Cyril Gauthier, le Breton de l'équipe Europcar, Simon Clark, l'Australien, et Pavel Brut, le Russe. Leur avance est désormais d'une minute sur le peloton, toujours emmené par les Movistar de Nairo Quintana.
Et oui, le peloton qui continue de maintenir à distance cette échappée aux alentours de la minute. Ça ne varie pas beaucoup entre 1 minute et 1 minute 30. Nous sommes à 61 km de l'arrivée. Et ce sera dur, évidemment, pour ce groupe-là d'aller chercher la victoire tout à l'heure, car cela va probablement accélérer dans la montée du Semnoz un peu plus tard dans la journée. On va s'interrompre quelques instants et revenir le plus rapidement possible sur la route du Tour. À tout de suite.
Christophe Cessieux.
Il reste encore un peu plus de 60 km, un peu moins de 60 km dans cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France aujourd'hui entre Annecy et le Semnoz. Dernière étape de montagne, dernière occasion pour tous ceux qui voudraient monter sur le podium ou tous ceux qui voudraient empocher et revêtir le maillot à poids de meilleur grimpeur demain. Donc les derniers kilomètres pour se mettre en évidence. Demain, ce sera la fête sur les Champs-Élysées entre le château de Versailles et les Champs-Élysées. On va faire un nouveau point sur la course et ensuite on ira retrouver la moto. On va d'abord aller retrouver la moto qui se trouve à l'avant de la course parce qu'il s'est passé des choses. Georges Quirino sur la moto.
Oui, effectivement, dans cette ascension du Mont Revard, avec un seul homme en tête désormais, c'est l'Allemand Jens Voigt, 42 ans, le vétéran de ce Tour de France, qui a laissé sur place, sur une accélération, son ancien compagnon d'échappée à l'avant, l'Australien Simon Clark. Il a maintenant, allez, on va dire 200 mètres d'avance. Il serre les dents, l'Allemand. Derrière lui, l'Australien est en train d'exploser. Il a le maillot ouvert complètement, Simon Clark. Il a une avance considérable désormais, Jens Voigt. Et on ne voit plus les maillots Europcar de Cyril Gauthier et de Pierre Roland qui ont été décrochés dans les premiers kilomètres de cette ascension.
Et oui, effectivement, Pierre Roland qui a fini par craquer sous les coups de boutoir de Jens Voigt, le vétéran de ce peloton, bientôt 42 ans, lui qui a une longue histoire avec le Tour de France, et il a décidé de partir tout seul. C'est une véritable machine à rouler, ce Jens Voigt, Cyril, hein.
Oui, toujours, toujours de plus en plus impressionnant. Une fois qu'il est lancé dans les courses à étapes, eh bien, il coince jamais. Il y a des jours où il est un petit peu moins bien, mais il a une telle volonté. Puis je crois qu'il doit avoir une vie de moine. C'est-à-dire que, vous savez, il est père de famille, il a 5 ou 6 enfants, c'est plus exactement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à aucun moment, ne va s'échapper de son métier. Bon, il l'aime trop. Et puis quand il rentre chez lui, eh bien, il a la vie d'un vrai père de famille. Alors c'est pas souvent, bien sûr. Donc il y a pas de perturbation dans sa vie. Il s'échappe pas. Il est soit avec sa famille, soit dans les grands événements du cyclisme international. À 42 ans bientôt. Ouais, je mets tout, c'est l'altitude.
C'est bien.
Près de 42 ans, il est toujours aussi performant. C'est presque aussi beau que Poulidor.
Il a 6 enfants. Hein, Yann,
ah ouais, 6 enfants. C'est
monsieur.
Ça, il faut de l'énergie. Hein, pour
sa femme, non?
Oui. C'est...
Il a 6 enfants avec sa femme.
Avec madame,
il a également 5 critériums internationaux.
5 chiens.
Si mes comptes sont bons, pas dit qu'il parvienne à réaliser l'exploit d'apporter une victoire au critérium international pour chaque enfant. Il aurait bien aimé, hein, mais il restera à 5, ce qui est déjà fort honorable. Jens Voigt, vainqueur entre autres, hein, des étapes de Saran et de Montélimar sur le Tour de France. Saran, c'était en 2001 sur une route parfaitement refaite, puisqu'on arrivait sur les routes des Époux-Chirac, me semble-t-il, en 2001, une route
Corrèze,
qui était un vrai bitume. Et puis Montélimar, c'était en 2006, dans cette longue échappée sous la canicule, l'échappée qui avait permis à Oscar Pereiro de se positionner au classement général, une échappée qui avait pris plus d'une demi-heure. Vous en souvenez sans doute, Oscar Pereiro qui du coup avait remporté le Tour de France 2006 après des classements, bien sûr, de Floyd Landis.
Et puis il y avait aussi cette image de Jens Voigt avec une terrible chute dans une
oui,
descente. Hein,
c'était le jour où l'un de ses compagnons d'échappée du jour, Mikel Astarloza, avait remporté l'étape devant Sandy Cazard. C'était à Bourg-Saint-Maurice, très exactement. Une chute hyper spectaculaire de Jens Voigt.
On avait cru que ça sonnerait l'heure de la retraite pour Jens Voigt.
Pas du tout, il avait été évacué par hélicoptère. On se souvient qu'on était allé assisté à ce spectacle, malheureux spectacle, mais il s'en est relevé comme il se relève de tout. Exactement, Bourg-Saint-Maurice, victoire de Michael Astarloza, lui aussi déclassé ce jour-là, qui avait volé la victoire à Sandy Cazard. Astarloza pris un peu plus tard par la patrouille pour prise de PO lui aussi.
Très bien, 58 km de l'arrivée, bah ça va être l'heure de parier sur RMC comme tous les jours. On va accueillir dans un instant notre ami Benji qui va nous récapituler les pronostics de la Dream Team et puis on va peut-être pouvoir mettre un deuxième petit billet maintenant. C'est parti pour les paris.
Les paris RMC. Tour de France.
Monsieur Ramagé, bonjour.
Salut messieurs.
Bon, alors, on va faire le point déjà de la situation, donner le classement général. Évidemment, c'est un peu comme Chris Froome. Je pense que Cyril Guimard ne peut plus être rattrapé pour le classement général. C'est lui qui portera le maillot jaune demain.
Oui, tout va se jouer aujourd'hui. Hein. On peut encore le rattraper.
Pour le podium, mais pas pour le maillot jaune.
Ah, si. Pour le maillot jaune, si. Tout est encore possible. Si c'est Nievé, par exemple, qui gagne, ou alors John Gadret, ou encore Chris Froome. Christophe, tu peux créer, la surprise. Virginie Fulpin peut également remporter le jaune. Ce soir, le druide sera tranquille. Mais aujourd'hui, tout peut encore se passer.
Ouais, tout peut encore se passer. Tu vas donc nous rappeler les prévisions, les prédictions du druide et les prévisions des autres.
Alors, le druide avait joué Joaquin Rodriguez cote de 4. Il est resté à 4. Rodriguez, le favori, c'est toujours Nairo Quintana à 2,05 désormais. C'était d'ailleurs le pari de Bourgui qui a également joué John Gadret. Lucho a joué Quintana et Michael Nievé. Christophe, toi, tu avais joué deux tickets également avec Froome et Rodriguez. Et j'avais joué Nievé et Valverde. Il nous manque notamment le prono de Fred Adam.
Fred.
Nievé. Ouais, j'étais en train d'y penser au moment du jingle des Paris, Nievé parce qu'il est très très intéressé par le classement de la montagne. Lui, au contraire de Pierre Roland ou de Christophe Ribland, ne s'est pas glissé dans l'échappée du jour. On l'a vu très actif hier dans l'échappée. Il a montré des limites, c'est vrai. Mais allez, s'il a la grosse cote, mettons un petit billet sur Nievé. Nievé déjà vainqueur, lui le basque de l'équipe Euskaltel, d'une étape sur le Tour d'Espagne, une sur le Tour d'Italie, à chaque fois en montagne bien sûr. À Caen, une victoire dans chaque grand tour.
Et on va voir un peu sur la moto ce qu'il en dit Georges Quirino, puisqu'il est au contact des hommes de tête. Bon, les hommes de tête, c'est peut-être pas là qu'on va trouver le vainqueur du jour, parce qu'il n'y a pas, même si l'écart est remonté quand même, 2,36 désormais pour Jens Voigt. Georges, qu'est-ce que tu en dis toi?
Non, je ne vais pas mettre une pièce sur l'allemand Jens Voigt, mais si je mets 50 000 euros sur Nairo Quintana, est-ce que je peux encore avoir le maillot jaune si je mets toutes mes économies là-dessus?
Ah, t'as 50 000 euros d'économie quand même. Ça rapporte, hein, la moto du Tour de France. Hein.
Ah non, bon, je vais être à découvert, je pense, hein, si je mets 50 000 euros. Mais non, je vois mal comment ça peut échapper à Nairo Quintana, qui en plus n'a pas réussi à avoir son étape encore sur ce Tour de France. Il la veut. En tout cas, Eusebio Unzué, son manager, nous l'a dit hier, qu'évidemment, ce serait la cerise sur le gâteau. Ils sont tous en place, les Movistar, pour l'emmener tout à l'heure au Semnoz. Donc je vais mettre Quintana, même si on ne gagne pas beaucoup. Hein. Mais si on met 50 000 euros, on gagne pas mal.
Ouais. Si on met 50 000 euros, on gagne combien, Benji? Parce que je ne vais pas faire les calculs, hein. Je ne suis pas assez bon.
On gagne 100 000 en fois 2, c'est pas très compliqué. Christophe, oui. La cote est à 2.
Ah, c'était, j'avais pas compris la cote. D'accord, elle est à 2. Je n'avais pas entendu
la
cote.
On rappelle la stat, Christophe.
Bêtement, monsieur Alberti, notre réalisateur, qui se marre comme une baleine depuis tout à l'heure. Chaque fois que je fais des calculs, ça le fait rire. C'est quand même étonnant.
C'est pas loin du loupé intégral sur les calculs. Vraiment, un cahier de vacances au mois d'août.
Loupé.
Oh là là, me cherchez pas, monsieur le Colombien, là, hein, parce que autrement, je vous mets la musique, moi. Hein, la musique pour Georges, s'il vous plaît. Elle est là. Alors ça, c'est la nouvelle chanson qu'on a trouvée pour Georges. C'est évidemment le générique des Mystérieuses Cités d'Or. Et le héros s'appelait Zia.
Il s'appelait Esteban. Esteban
et Zia, oui.
Avec Georges Quirino. Voilà.
Il y avait Tao, Esteban et Zia.
Voilà, des petits
et juste avant d'aller au foot le mercredi après-midi, on avait droit aux Cités d'Or.
Très bien.
On en a séché quelques entraînements à cause des Cités d'Or. Hein.
C'est mieux pour toi, hein, Georges. Esteban, c'est quand même plus sympa que de ressembler à Nairo Quintana.
Ouais,
tu gagnes en grade.
Je sais pas, c'est un personnage dessin animé, hein, Esteban. Hein. Donc,
oui, mais toi aussi finalement, hein. Tu ressembles un peu à dessin animé.
Il y a quelque chose. Il y a quelque
chose. Il y en a d'autres, des gens de dessin animé.
Mais je préfère être un personnage de dessin animé plutôt qu'un personnage de l'île aux enfants qui est bon.
Dont on ne citera pas le nom.
C'est des déguisements, quoi.
Voilà, exactement. Très bien, très bien. Vous êtes parfait. Merci Georges, merci à Benji. On se retrouve tout à l'heure pour les paris évidemment, pour voir un peu où on en est de nos classements et savoir si aujourd'hui on pourra pronostiquer les vainqueurs.
Un petit mot pour nos parieurs. Nouvelle physionomie de la course dans le groupe de contre-attaque derrière Jens Vogt, là où l'on trouve Christophe Riblon, Pierre Roland et Cyril Gauthier. Il y a deux nouveaux coureurs qui viennent de rentrer sur ce groupe. Ce sont deux coureurs de la BMC. TJ Van Garderen, qui avait terminé deuxième à l'Alpe d'Huez, est dans ce groupe de contre-attaque, accompagné de son équipier, le champion du monde, Philippe Gilbert. Donc on a trois BMC dans le groupe de contre. Il y a Burgaert, Gilbert et Van Garderen.
Très bien.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors on a Fred, on a Cyril, on a Pierre-Yves Leroux qui va arriver dans quelques instants aussi. On lui réservera sa petite musique. On a qui? Mais on a Dédé. Chacun a sa petite musique, c'est ça l'intégral tour sur RMC. Dédé qui est là, évidemment, sur la route, encore une fois aujourd'hui, sous le soleil. Enfin, il fait bon, mais c'est pas non plus la canicule sur le Tour de France, André.
Non, c'est pas la canicule, mais c'est quand même 22 degrés dans les parties les plus basses, 22, 23 degrés, puis 17 à 20 degrés quand on est au sommet, ou à UX. Sommet, donc c'est plutôt une très belle température pour rouler aujourd'hui. Ce qui n'empêche que malgré la fraîcheur des jours précédents et la pluie, eh bien, on a eu quelques petits ressuages qui sont de retour avec le soleil. Donc on est content, on a une citerne d'eau qui passe et qui rafraîchit certaines portions dans les descentes, les lacets qui méritent de temps en temps un coup de balai ou un coup de flotte pour refroidir le bitume.
Mmh. Demain, on annonce la canicule, André, hein, entre Paris. Entre Versailles et Paris. Là, je ne sais pas si on va pouvoir envoyer Léon et ressuer les Champs-Élysées. Ça ne se fait pas, ça.
Moi, j'ai dit que le passage sur les Champs, on y passe sur les Champs avec la caravane publicitaire dans le défilé juste avant la course. Je pense qu'on va mettre le balai par terre et on va s'amuser à mettre un peu de flotte par terre pour le fun.
Très bien. Très bien. La montée du Semnoz, ça va, c'est tranquille, André. C'est un beau bitume.
Oui. C'est une première. C'est cette montée par Quintal, c'est quand même par Quintal, oui. Donc, je vais pas résister aux trois chiffres. Donc, c'est en fin de tour, ça arrive à plusieurs, hein, les trois chiffres.
Oh là là, tu t'engages sur un terrain.
Ah, sur un terrain, oui. Ouais,
terrain glissant.
Ouais. Je sais, bon, je vais me taire. Donc la première partie est quand même très raide avec des passages à 10%, mais on sera en forêt. À noter quand même deux passages canadiens, les fameuses barrières canadiennes qu'on trouve généralement dans les Pyrénées, eh bien, il y en a également dans les Alpes. On en a ici deux qui ont été intégralement démontés. Donc en fait, cette barrière canadienne qui est un passage pour limiter les animaux et pour les laisser parquer dans les alpages, eh bien cette barrière a été démontée. Si on retire la grille qui est dessus, et puis le département n'a rien trouvé mieux que de combler le trou qu'il y a en dessous et de rajouter un peu de revêtement pour que la course puisse passer comme si c'était une simple rustine sur la chaussée. Le problème, c'est que les paysans sont un peu moins contents parce qu'ils vont être obligés de surveiller leurs animaux qui vont s'égayer dans la nature. Mais avec le bruit du Tour de France, je pense que les vaches vont avoir du lait qui tourne directement et ne viendront pas sur la route embêtées.
Il n'y en aura pas bon fromage savoyard. C'est terrible, c'est à cause du Tour de France.
C'est terrible, hein. Mais si de toute façon le lait, ça se caille, hein, pour faire du fromage.
Oui, c'est vrai. Non,
très, très drôle, ça se caille. C'était fait exprès, Dédé?
Non, même pas.
Oh, merde.
Au moins, il est honnête.
Oh, j'y avais cru, mais non, toujours pas, alors. Hein, toujours pas.
Toujours pas, Fred.
Merci, André, en tous les cas. Merci pour ce jeu de mots qui n'a...
Bien involontaire.
Bien involontaire, mais qui nous a ravis tout de même.
On le
ressortira. Merci, André. On se voit demain sur les Champs-Élysées. Oui. Évidemment, pour la dernière étape, on va se quitter quelques instants. 54 km de l'arrivée. Un petit point rapide quand même, Fred. C'est le top course, hein. C'est la course, non?
RMC Top Course.
Avec un homme seul en tête dans le final du Mont-Revard, classé en première catégorie, cet Allemand, c'est l'inoxydable vétéran allemand Jens Voigt, bientôt 42 ans, ce sera au mois de septembre. Il compte à 54 km de l'arrivée, alors qu'on vous le rappelle, il y a la fin du Mont-Revard à escalader, plus cette montée finale hors catégorie vers le Semnoz. Il compte 30 secondes d'avance sur son premier contre-attaquant Igor Anton, 1 minute 30 sur un groupe où l'on trouve notamment Pierre Roland et Cyril Gauthier, ainsi ainsi que TJ Van Garderen ou Marcus Burgaert, et le peloton maillot jaune est pointé lui à 3 minutes. Il laisse enfin un peu de champ à ce diable de Jens Voigt, tout dans dehors, infatigable et admirable d'abnégation, 54 km de l'arrivée.
Il est 15h42, on se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour pour cette avant-dernière étape du Tour de France. Tout à l'heure, la bagarre aura lieu, soyez-en sûrs, dans la montée du Semnoz. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Encore 52 km 500 à parcourir pour cette 20e étape du Tour de France. C'est l'avant-dernière, c'est la dernière étape de montagne, celle qui va décider du podium, celle qui va décider du classement de la montagne, ce fameux maillot blanc à pois rouge. Bref, beaucoup de choses aujourd'hui encore à jouer, et puis aussi une victoire d'étape. On fait un nouveau point sur la course à 52 km de l'arrivée avec un seul homme en tête, le vétéran du Tour de France, Fred.
RMC Top Course.
Et le vétéran, il a bientôt 42 ans, il est allemand, porte le maillot de la formation Radio Shack. C'est Jens Voigt, bien connu des services de n'importe quel passionné de vélo. Jens Voigt, lancé dans le final du Mont-Revard, à la chasse à l'honneur, à la chasse à la gloire, avec la montée finale vers le Semnoz, classé hors catégorie. Ça paraît mission impossible, mais ce diable de Jens Voigt est lancé et compte désormais 30 secondes d'avance sur son premier contre-attaquant, son premier poursuivant, le basque Igor Anton. 1:40 d'avance pour Voigt sur un groupe de contre-attaque comprenant notamment les Français Riblon, Gauthier, Roland, mais aussi l'Allemand Burgaert, son coéquipier de BMC Gilbert et un autre coureur de BMC Van Garderen. Il y a également le Russe Brut et l'Australien Simon Clark. Le peloton maillot jaune est à 3 minutes 15. Jens Voigt arc-bouté sur sa machine qui nous fait une Voigt tout simplement à 52 km de l'arrivée.
La machine à rouler, Jens Voigt. Pendant ce temps-là, la machine à sandwich est bloquée dans les œufs, figurez-vous. Luc Leblanc qui l'appelle. Voilà, qui chante sur le télésiège. Alors, vous êtes peut-être étonné de ne pas entendre la voix de Luc. D'habitude, à 15h48, il est arrivé.
Jean-Claude Duisse, il y a du Luc.
Oui, complètement.
Yes, monsieur.
Voilà, Luc qui est bloqué dans les œufs. Salut, Lucho.
Ah oui, écoute, je suis dans le groupe Eto, là.
Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous.
C'est exactement comme dans Les Bronzés, quoi, avec blanc, coincé sur le télésiège, en plein milieu de la montagne, il n'y a personne. Je suis au milieu, je descends à 2 à l'heure, quoi.
Mais comment ça se fait? Mais comment t'es monté dans un télésiège en panne?
Ben, de toute façon, la zone technique, hein, il y avait plus de place. Je suis à roue, j'ai pas fait une parité.
On l'entend plus, Lucho, mais on a bien compris qu'il était bloqué.
J'espère pour lui que c'est pas une panne de batterie. Hein. Il va rester pour de bon.
Ah non, mais si son téléphone ne marche plus, ça va être terrible pour lui et qu'il reste bloqué toute la nuit. Bon, Lucho, courage. On t'envoie les pompiers, on t'envoie les hélicos pour te secourir. Mais vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui étaient très inquiets de ne pas entendre la voix de Lucho.
C'est quand même là qu'il est meilleur, hein, coincé sur un télésiège. Hein. Faudra y penser pour le Tour 2014.
Pays merveilleux. Mais s'inquiète pas, Lucho, tu vas nous retrouver dans quelques minutes. 15h49 sur RMC. Lui, il n'est pas coincé. C'est Georges Quirino accompagné de Marc Combes sur la moto du Tour de France, la moto RMC. Oh, elle a eu quelques petits ratés quand même, la moto durant ce Tour de France. Mais elle va mieux. Oh non, ça y est, c'est reparti. C'est pas moi, Georges, c'est pas moi qui ai décidé. La moto RMC.
Les œufs avec devant l'homme de tête dans la traversée de la station de la Fécla, qui est à moins de 4 km du sommet maintenant. On est dans des portions assez roulantes où la pente n'est pas très importante et on a derrière nous, eh bien, Jens Voigt, toujours avec les tout dedans, dehors. On le voit vraiment sur son vélo en train de poursuivre son effort, en train d'écraser les pédales, le vétéran allemand qui a été rejoint il y a quelques instants juste derrière lui par son directeur sportif Alain Galopin, qui s'est placé derrière lui, le français, qui va pouvoir l'encourager et l'aider tout à l'heure en lui donnant quelques ravitaillements peut-être. Et pour l'instant on ne voit pas le maillot orange de Igor Anton en ligne de vue derrière, donc Jens Voigt qui a pour l'instant une avance assez confortable dans les derniers kilomètres de cette ascension où les supporters sont très nombreux toujours pour encourager l'allemand et les autres coureurs du Tour de France qui vont suivre derrière lui.
Très bien, 50 km 500 de l'arrivée. Alors
Alors on est dans le Revard, Fred. On va quand même rappeler que cette ascension mythique, ce col mythique du Tour de France, a été remporté par un coureur mythique qui avait battu un encore plus grand mythique que lui.
Un certain
Cannibal, un certain Eddy Merckx.
Oui, c'était au lendemain de la victoire de Cyril Guimard. C'était où? C'était à Aix-les-Bains, la victoire de Guimard, maillot vert sur les épaules, qui allait se coltiner la haute montagne le lendemain. Guimard, sprinter, et qui effectivement, avec arrivée d'étape au Mont Revard, n'avait pas grand chose à espérer. Et pourtant, eh bien, Eddy Merckx, qui avait quasiment course gagnée.
Tu le vexes là quand tu dis qu'il n'avait pas grand chose à gagner.
Non, Eddy Merckx n'avait pas grand chose à craindre. Voilà, exactement.
Du tira, comme il l'appelle.
Il avait course gagnée dans cette étape de montagne avec arrivée du Mont Revard. Et puis, Cyril, qu'est-il advenu de ce final d'étape?
Alors, c'est vrai que j'étais sprinter, mais la veille, quand je gagne à Aix-les-Bains, je gagne donc devant Merckx, mais c'était une étape de montagne, déjà, la veille.
Arrivé dans la vallée, mais effectivement
étape de montagne. Toi, tu étais le premier spécimen du grimpeur-sprinter.
Oui, ou du sprinter-grimpeur, comme vous voulez. Et donc là, le Revard, bon, c'est une ascension qui m'allait relativement bien, et au sprint, eh bien, j'ai failli perdre la course, d'ailleurs, non pas parce que j'ai fait une petite faute dans le dernier virage. J'ai mis trop grand.
Là, on est sur Aix-les-Bains, Cyril.
Non, le lendemain.
Ah, d'accord.
Aix-les-Bains,
au sommet du Revard.
Aix-les-Bains, c'est un sprint sur le plat. Il n'y a pas de souci, classique.
En balai plié,
quelques centimètres sur la ligne, ça suffisait. Mais étant un ancien vice-champion de France de vitesse, je n'étais pas encore. J'étais déjà champion de France de vitesse sur piste.
Oui. Il nous dira tout.
Et voilà. Eh bien, donc, je suis venu sauter juste sur la ligne. Et le lendemain, j'ai fait une petite erreur de braquet. Pas une erreur de braquet. En fait, il n'y avait pas les indexations sur les dérailleurs à l'époque. Et quand j'ai poussé la manette au cadre, parce que les manettes étaient au cadre, eh bien, au lieu de mettre le 14, je me suis retrouvé sur le 13. Et donc, j'ai fait le sprint avec 13 dents. Donc, j'ai perdu 2-3 longueurs sur Merckx au démarrage. Mais une fois que le braquet a été lancé, je suis arrivé à pratiquement 15 à l'heure.
Merckx pensait avoir course gagnée. Il lève à moitié les bras et paf.
Il commence à lever le bras, mais il n'a pas vu que je suis 15 à l'heure plus vite derrière.
Et ouais.
Voilà. Donc, je viens sauter, somme toute, assez facilement.
C'est de là que vos relations orageuses sont nées?
Non, pas du tout. Non, elles sont plus récentes. Mmh. Donc là, le soir, nous étions au même hôtel et Merckx dit, parce que la table était à côté de nous, et il dit, j'avais mis trop gros, j'avais 54-14. Et moi, je lui dis, ah bon, moi j'avais 53-13. Bon, il s'est retourné, on ne s'est plus reparlé de la soirée.
Le cannibale n'aimait pas perdre. Hein,
les problèmes avec Merckx, enfin Merckx n'est plus mon ami, parce que vous savez, il y a un an, j'ai écrit un bouquin où je dis des choses telles que je les pense sur Eddy Merckx, et il n'a pas aimé qu'on dise des choses que lui n'avait pas envie d'entendre.
Très bien. Bon, c'est ça les grands champions avec des égos surdimensionnés de temps en temps.
C'est ton fait d'armes ou pas? La victoire au Revard devant Merckx, c'est une carte de visite, ça?
Oui, c'est une carte de visite, mais ce qui me choque, c'est qu'on ne se rappelle pas de la victoire de la veille.
Oui.
Qui, sur le plan sportif, pour moi, était plus importante que celle du Revard.
Dis-moi qui tu bats, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. C'est dis-moi qui sont tes seconds et on mesurera l'ampleur de ta victoire.
Oui, c'est ça. Bon, oui, bon, enfin, ça, c'est un dicton, mais c'est vrai que pour moi, l'étape de la veille est beaucoup plus importante parce que nous avions tous les grands cols de la Chartreuse, et que j'étais quand même deuxième au classement général. Qu'ensuite les choses se sont un petit peu gâtées parce que même déjà dans le Revard, j'ai déjà mal au genou, mais en fait j'ai un petit peu mal au genou depuis les Pyrénées. Mais bon, à ce moment-là, ça passe encore, c'est après que ça va se dégrader et que je vais être contraint d'abandonner alors que je suis toujours deuxième au général.
Et paradoxalement, cette victoire, c'est un peu le début de la fin de ta carrière.
Ben oui, parce qu'on aura mis même 4 ans pour retrouver ce que j'avais au genou, enfin pas 4 ans, 3 ans pour retrouver ce que j'avais au genou, et quand on a trouvé, donc je suis avec ma carrière était finie.
Voilà, ça c'était en 1972.
Mais je l'explique très bien dans mon livre.
Bah oui, ton magnifique livre, le titre, je ne me rappelle plus, Cyril, dans la.
Les secrets du Tour de France,
exactement. Sorti l'année dernière aux éditions.
C'est quoi les éditions?
Je sais pas. Super bouquin.
Ouais, si vous voulez des anecdotes.
Vous rappelez même pas.
Ah, mais je me rappelle plus.
En toute objectivité, un vrai régal.
Un vrai bon livre de cyclisme, ils ne sont pas tous bons.
Moi qui n'aime pas Guimard, j'ai bien aimé le bouquin.
Ah bah dis donc.
En fait, il m'aime un petit peu mieux depuis qu'il a lu le bouquin.
Exactement. Nous, on aime bien Georges en sa moto, qui va nous faire un nouveau point de la course. Nous sommes à 47 km de l'arrivée, avec toujours un seul homme en tête, une machine à rouler allemande incroyable, Jens Voigt.
Oui, Jens Voigt, mais attention, il est en train de se retourner alors que l'on se rapproche du sommet du Mont-Revard. L'Allemand qui se retourne car derrière lui, il y a le Basque Igor Anton de l'équipe Scaltel qui n'est plus très loin de lui désormais, alors qu'on est à l'ombre complètement dans les derniers kilomètres de cette ascension sous les sapins en haut du Mont-Revard. Et Jens Voigt, voilà, qui n'a plus que quelques mètres d'avance sur le coureur de l'équipe Scaltel dans les derniers lacets qui vont nous mener tout en haut de ce Mont-Revard. La température qui a baissé, hein, évidemment, il faisait très chaud au pied, il fait un petit peu plus frais au fur et à mesure que l'on s'élève ici dans les derniers kilomètres de cette ascension. Jens Voigt qui relance, il se met en danseuse à l'instant pour essayer de regagner un petit peu de vitesse. Il est à 1 km désormais, 1 km du sommet de cette ascension.
Mais parfait, Fred, rapidement donc le point total de la situation avant les infos de 16h.
Avec ces deux hommes de tête bientôt, Voigt et Anton, qui comptent 2 minutes 15 d'avance à 1 km du sommet du Revard, 2 minutes 15 d'avance sur un groupe où figurent 4 Français désormais: Roland Gauthier, Christophe Riblon et le jeune Alexis Vuillermoz, le coureur de l'équipe Sojasun qui vient de revenir du peloton. Le peloton est à 3 minutes 20 à 47 km de l'arrivée. Attention, les Movistar sont relayés à l'avant de ce peloton par un coureur de l'équipe Katyusha, Yuri Trofimov, le Russe, qui est en train probablement de préparer le terrain pour une attaque de Joachim Rodriguez dans le Mont Semnoz. La grande explication dans ce col hors catégorie est en train de se préparer.
Ça se prépare, ça se prépare, ça se travaille tout ça. 15h57, les infos dans un instant, nous revenons pour la fin de cette étape, l'avant-dernière étape de ce Tour de France, dernière étape de montagne. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et au programme aujourd'hui, l'avant-dernière étape de ce Tour de France, dernière étape de montagne, dernière occasion pour les grimpeurs, les escaladeurs de tout poil de se mettre en évidence avec la dernière ascension tout à l'heure, le Semnoz, que nous allons suivre évidemment en intégralité sur l'antenne d'RMC. C'est le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. Demain, ce sera la grande balade en direction des Champs-Élysées. On va tout de suite faire un point sur la course. Nous sommes à 37 km de l'arrivée. Fred est toujours un seul homme en tête, une machine à rouler impressionnante nommée Jens Voigt.
RMC Top Course.
La Wunder Machine, l'Allemand Jens Voigt, bientôt 42 ans, effectivement, lancé vers la gloire peut-être. En tout cas, il est là plus que pour l'honneur. Il y a encore la terrible montée du Semnoz au-dessus d'Annecy, classé hors catégorie. Mais Jens Voigt n'a pas peur de se lancer seul à la conquête de ce sommet. Il compte à 37 km de l'arrivée dans la descente du Mont-Revard. 45 secondes désormais d'avance sur son premier poursuivant, le Basque Igor Anton. Il compte bientôt 2 minutes d'avance sur un groupe de contre-attaque avec 9 coureurs, dont 4 Français. Pierre Rolland, lancé à la chasse au point du maillot de meilleur grimpeur. Son coéquipier Cyril Gauthier, Christophe Riblon, le vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez. Et puis Alexis Vuillermoz, l'ancien vététiste de l'équipe Sojasun, qui vient de se mêler à ce groupe de contre-attaque. Il y a là également Van Garderen, Philippe Gilbert, Marcus Bourgard, tout l'Australien Clark et le Russe Pavel Brut. Le peloton maillot jaune est à 3 minutes 23. Un peloton toujours emmené par les Movistar de Quintana. On est à 37 km de l'arrivée.
Et ça n'amuse pas la galerie, mais alors pas du tout dans la descente de ce col du Revard. Nous allons retrouver la moto RMC, Georges Quirino.
Oui, devant Jens Voigt qui descend à toute allure cette descente du Mont-Revard, qui est assez technique tout de même, même si la chaussée est plutôt en bon état. Il y a un magnifique, une épingle au niveau à mi-descente environ, où énormément de spectateurs se sont placés. Je faisais la remarque avec Marco il y a quelques instants, il faudrait pas qu'il y en ait un qui fasse tout droit.
Attention, attention Georges, ouais. Il y a un incident technique à l'arrière du peloton maillot jaune, Fred.
Oui, c'est la crevaison pour un coéquipier d'Alberto Contador, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Roman Kreuziger. Kreuziger qui, on le rappelle, était quatrième du général ce matin dans le mouchoir de poche que comprend le quatuor Contador, Quintana, Kreuziger et Rodriguez. Ces quatre-là sont en lice pour les deuxième et troisième marches du podium derrière la prise. A priori intouchable, Christopher Froome. Roman Kreuziger, victime d'une crevaison de la roue arrière dans la descente du Revard, et qui va tâcher de rentrer avant le pied du Semnoz, a priori sans aucune difficulté. Il a été dépanné par la voiture de son directeur sportif Philippe Mauduit, et il a encore une bonne vingtaine de kilomètres avant le début de l'ascension du Semnoz. Il a le temps pour rentrer, Roman Kreuziger, mais petite alerte dans le camp Saxo-Tinkoff.
Oui, pas attendu, hein, Cyril, par ses coéquipiers qui sont probablement restés à l'avant pour. Si, il y en a quelques-uns qui sont décrochés.
Un coureur sûr, les informations sont très bien passées dans les oreillettes et on a fait décrocher un coureur de Saxo Tinkoff. C'est pas forcément utile d'ailleurs dans une descente de col. L'abri des voitures suiveuses est suffisant et c'est vrai que ça ne sert à rien de créer un embouteillage sur des routes aussi sinueuses qu'une descente du Mont Revard.
Voilà, et Kreuziger qui va devoir tout donner dans cette descente pour tenter de rattraper le peloton maillot jaune avant tout à l'heure le pied du Semnoz qui sera la dernière ascension de la journée. On l'a retrouvé, on a retrouvé.
Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Toi.
C'est alors, le plus grand physique, il y a peut-être des gens, mais pas le mien.
Si t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Nous avions Michel Blanc,
Jean-Claude Duss,
nous avons Luc Leblanc.
J'ai joué à Jean-Claude Duss aujourd'hui, ouais.
Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon Lucho? T'avais perdu la montagne?
Je suis passé 2 km après la ligne d'arrivée, c'était très loin, et puis il fallait prendre le télésiège pour descendre jusqu'à la zone technique. Hein.
Ouais.
Donc voilà.
Bon.
La
différence avec Michel Blanc, c'est que toi, tu conclus souvent.
Oui, c'est possible.
Ouais. Beaucoup
non,
plus.
Non, mais
que
bon, en tout cas, simplement pour dire Christophe que ce soir, ça va être galère pour les récupérer la voiture.
Ah.
Si quelqu'un va pas chercher notre voiture, on est mort.
Ah bah d'accord.
Parce que les télécabines ne fonctionnent plus après 18h. Donc voilà, c'est simplement de l'info du jour. Quoi.
Très bien. Autre information. On a retrouvé une archive incroyable. 1972, étape du Tour de France, arrivée au Mont-Revard. Écoutez, ça dure pas longtemps, mais c'est assez mythique.
Eddy Merckx pensait pouvoir la gagner, mais regardez bien dans quelques instants, à gauche, comment Cyril Guimard, qui faisait les extérieurs, va lui souffler une fois de plus la victoire. Van Impe est 3e, Poulidor 4e. Avec Cyril Guimard, on se demande si Eddy Merckx ne va pas être contraint désormais de se contenter des victoires dans les étapes contre la montre.
Cyril, vous l'avez est-ce que les larmes te montent aux yeux?
C'est suspect quand même ta victoire au Mont-Revard, Cyril.
C'est vrai, un sprinter qui s'impose dans la montagne quand même. Je me demande à quoi il marchait, Cyril. C'était quoi à l'époque les produits utilisés?
Les produits du druide.
On a posé la question à Fred. Non, je ne me prononcerai pas pour avoir eu des conversations privées avec Cyril. Il y a le on et il y a le off.
On ne dira pas tout dans cette émission.
À cette époque-là, c'était quoi? C'était les amphétamines, Cyril, en 72?
Non. Il est en train de finir les amphétamines. Alors voyons, les amphétamines, c'est le premier produit qu'on retrouvait dans un contrôle.
Ah ouais. Donc c'était pas ça.
Ça aussi, c'est la science de la course.
Il ne nous dira pas tout. Hier, il s'est entretenu avec Dale Braceford, le patron de Sky. Je ne sais pas de quoi ils ont pu parler tous les deux. C'est sympa en tous les cas de parler avec celui qui te succède en tant que manager d'un vainqueur du Tour de France.
Oui, enfin il y en a d'autres qui m'ont succédé quand même.
Oui, quelques-uns, oui, mais pas beaucoup.
Mais c'était très sympa. On a discuté un peu hier soir et puis ce matin au petit déj. D'abord, c'est un homme très agréable,
ouais.
Qui est comme tout le monde, qui ne se prend pas la tête et qui travaille beaucoup. Et c'est vrai que l'entretien était très riche.
Très riche, garçon intéressant,
ouais.
Garçon passionné qui est brillant, vraiment brillant.
Hein. Brillant,
parce
brillant.
Qu'il entraîne non seulement la formation Sky, il est manager, mais Fred, on rappelle aussi qu'il était à la tête de l'équipe de Grande-Bretagne de cyclisme lors des derniers Jeux Olympiques.
Cyclisme sur piste.
Ouais, avec le succès que l'on connaît.
Oui. Oui, lors des derniers Jeux Olympiques, ceux d'avant, à Pékin, bien sûr. C'est vraiment l'homme du cyclisme britannique de la dernière décennie. Et effectivement, depuis qu'il s'est mis en tête de reproduire ses schémas de succès sur la piste, sur la route, de les appliquer au peloton international, il a mis le temps, il a mis 2-3 ans, le temps que tout se mette en place, le temps que ces concepts, ces schémas, ces révolutions, parce que le monde du cyclisme est vraiment un terreau avec le sérail, avec des habitudes très ancrées, presque traditionnalistes et très conservateurs. Dave Brailsford a mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, il a mis le temps, mais aujourd'hui il a un schéma qui marche et il l'a prouvé avec Bradley Wiggins l'an passé. Il est en passe, par l'intermédiaire de Christopher Froome, de remporter un deuxième Tour de France en 2 ans. Dave Brailsford, qui, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de David Millar, autre coureur du Royaume-Uni, l'écossais de l'équipe Garmin Sharp, hier dans l'équipe, qui travaille beaucoup, 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 qui ne passe sa vie qu'à ça, quasiment. Et d'ailleurs, c'est de là, Dave Millar, encore coureur chez Garmin aujourd'hui, qui va terminer demain son 12e Tour de France, et Dave Brailsford ne se parle plus, parce que ce Dave Brailsford a une rigidité, une tolérance zéro sur les affaires de dopage qui ne cadrait pas avec le statut de repenti de David Millar. Du coup, il ne se parle plus. Il y a une, il y a un jusqu'au boutisme de Dave Brailsford qui mène au succès, oui, mais qui peut du coup faire le ménage dans, dans,
il
dans
a fait
la
le
vie
ménage,
sociale.
Il a fait un sacré ménage d'ailleurs après le dernier Tour de France, puisque l'un de ses principaux directeurs sportifs, Sean Yates, a, oui. été, a été remercié de l'équipe Sky.
Le médecin de l'équipe également, qui avait été pris dans les affaires de Rabobank, ancien médecin de l'équipe Rabobank, n'est plus médecin chez Sky parce que on lui a trouvé des casseroles, va-t-on dire dans dans le jargon. Effectivement, Brailsford jusqu'au boutiste. Le petit problème, c'est que c'était la raison aussi évoquée par un certain Lance Armstrong. La clé du succès, c'est le hard working, le travail jusqu'au bout. Jusqu'ici, pour Dave Brailsford et l'équipe Sky, on n'a pas de raison de douter pourvu que l'avenir perdure ainsi.
Très bien, on va faire un nouveau point sur la course, Fred, avant d'évoquer dans quelques minutes ce Semnoz, cette dernière ascension du Tour de France, et ces magnifiques paysages et tous ces animaux qui marchent dans la montagne. Tu vas les repérer tout à l'heure, tu vas nous en parler dans un instant. Auparavant, un nouveau Top Course, Fred.
RMC Top Course.
Avec un homme seul en tête dans cette équipe, dans cette étape très courte, très nerveuse, 125 km en direction du Semnoz, dernier col hors catégorie et dernier col tout court du 100e Tour de France. Jens Voigt, l'Allemand, est au pied de la descente du Mont Revard. Quelques 15 km encore, ou moins 10 km de vallée, puis ce sera le début de la montée du Semnoz. Jens Voigt, le quadragénaire de l'équipe Radio Shack, compte une minute d'avance sur le grimpeur basque Igor Anton. 1,50 sur un groupe de 8 poursuivants avec les 4 Français Roland, Gauthier, Riblon et Villermoz. Le peloton maillot jaune est désormais relégué à 3 minutes 8. C'est un écart stabilisé avec toujours les Movistar de Valverde, de Rui Costa, mais surtout de Nairo Quintana qui mène la danse. Quintana, troisième du général, qui va tenter tout à l'heure dans le Semnoz de chipper la place de dauphin de Chris Froome à Alberto Contador. Ils sont 4, on le rappelle, en moins de 50 secondes pour les deux dernières marches du podium, puisqu'avec 5 minutes d'avance, a priori, le maillot jaune britannique a Tour de France gagné.
Très bien, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, qui est la simulation officiel du Tour de France sur PC, le jeu de société L'échappée infernale, le livre Le Contour et puis surtout une journée VIP sur le Tour de l'Ain pour deux personnes sur une étape au choix avec accès à l'espace invité, au quartier des coureurs, repas du midi au village départ suivi de la course dans un véhicule officiel et accès à l'espace invité d'arrivée, le Tour de l'Ain qui se déroulera du 9 au 13 août prochain. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez le mot clé RMC par SMS au 732 16. Bonne chance. Dans un instant, nous évoquons le Semnoz. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Il ne reste plus qu'un seul col à franchir dans ce Tour de France 2013, mais quel col, le Semnoz, tout à l'heure, que le peloton et que les hommes de tête ne vont pas tarder à aborder. Le Semnoz, il sera jugé l'arrivée tout à l'heure de la 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France, 125 km. Il n'en reste plus que 26,5. Fred, on fait un nouveau point sur la course avec une situation on ne peut plus claire. Le Top Course.
RMC Top Course.
Un homme seul en tête, il s'agit de Jens Voigt, l'Allemand, vétéran du Tour de France, bientôt 42 ans, lancé à désormais 30 km de l'arrivée, lancé vers le pied du Semnoz au-dessus d'Annecy. Il compte, lui, le coureur de Radio Shack, 1 minute 50 d'avance sur un groupe de contre-attaque de 9 coureurs, avec notamment les Français Pierre Roland, à la chasse au point du meilleur grimpeur aujourd'hui, Cyril Gauthier, Christophe Riblon et Alexis Villermoz. Attention, 3 BMC sont dans ce groupe de contre. Il y a là Marcus Burgaard, Philippe Gilbert, le champion du monde, et TJ Van Garderen, le peloton maillot jaune, et lui à 3 minutes pile. Peloton toujours emmené, non pas par les Sky de Christopher Froome, mais bien par les Movistar de Valverde, mais surtout de Quintana. Quintana qui vise plus que jamais l'étape ici en haut du Semnoz et la deuxième place qu'il veut chipper à Alberto Contador après les 10 km 700 d'ascension de ce col hors catégorie.
Les grandes manœuvres ne vont pas tarder à débuter, donc dans le peloton, on vise la victoire d'étape, on vise le podium de ce Tour de France et on vise aussi le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui va aborder dans quelques instants la dernière ascension de ce Tour de France. Profites-en, Georges. Ensuite, il faudra attendre un an avant de retrouver ton fidèle compagnon, Marc Lecompte.
Oui, et on est devant l'homme de tête qui passe à l'instant sous la banderole indiquant les 25 derniers kilomètres. Jens Voigt, la bouche grande ouverte de l'Allemand qui rentre à l'instant même dans le département de Haute-Savoie. À nouveau, on on est désormais dans la plaine, on est sur, on en a fini avec la descente du Revard. Ça va très très vite pour l'Allemand qui a les mains en bas du guidon, encouragé par son directeur sportif Alain Galopin qui est juste derrière lui. On est au milieu des pâturages et des troupeaux de vaches largement nombreux sur le bord de la route. El Diablo, tiens, El Diablo que l'on dépasse à l'instant, le supporter le plus connu du Tour de France qui cette année a une tenue toute particulière. D'habitude il est en rouge intégral diable, hein, et là il a une tenue jaune diable pour fêter la centième édition du Tour de France. Même El Diablo donc avait prévu une tenue spéciale pour cet anniversaire. Et donc Jens Voigt toujours concentré sur son effort, il ne regarde pas derrière lui, concentré, le regard bien devant pour l'Allemand qui se rapproche de plus en plus des premières pentes du Semnose.
Georges Quirino et Marc Combes qui sont un peu nos Don Quichotte et Sancho Panza ici sur RMC avec leur fidèle destrier dans la dernière ascension de la journée. 24 km 200. Fred, on va parler de ce Semnose qui est une magnifique montagne ici avec une vue plongeante sur le Mont Blanc. Tu allais tout à l'heure te balader, évidemment. On ne peut pas t'empêcher d'aller gambader dans les alpages. Qu'est-ce que tu as vu comme bestiole? Il y a des vaches.
Il y a des vaches.
On nous a dit là il y a quelques instants.
De très belles hôtesses également là-haut parce que c'est là.
Ah oui, c'est là qu'elles sont. On nous les a planquées là-haut.
Je savais pas que des vaches étaient une bestiole.
Non, bah elles sont cachées les bêtes, qu'elles s'appellent chamois, bouquetin ou marmotte. Quand elles voient le barnum du Tour de France arriver, évidemment que c'est tous aux abris, mais le cadre aujourd'hui est magnifique. Le Semnose, c'est effectivement un sommet qui culmine à 1655 mètres d'altitude. Elle est surnommée la montagne des Annecéens. Elle domine effectivement le lac d'Annecy, mais surtout de là-haut, au-dessus des sapins, là-haut sur une vue totalement dégagée, on a un panorama à 360 degrés. On sait qu'on ne monte pas près de 11 km depuis le lac d'Annecy pour rien, avec effectivement vue sur le massif du Mont Blanc. Vous avez un 360, donc on va pas vous faire tous les sommets, mais ça part des Aravis, vous avez le col de la Forcla, vous avez au loin là-bas les Écrins, le massif des Écrins. On a également aperçu la tête de chat juste à côté des aiguilles d'Arves. C'est au-dessus de la station de Saint-Sorlin d'Arves, dans le col de la Croix de Fer.
Cyril est impressionné.
Non, c'est sublime. Il y a la vue sur les sommets suisses également, vue sur le Mont Tabor entre Suisse et Italie. C'est la totale. C'est un paradis. Ouais. Et définitivement, les organisateurs du 100e Tour de France ont mis les petits plats dans les grands. Du départ de la Corse jusqu'à la Côte d'Azur, l'arrivée sur la promenade des Anglais, le Mont Saint-Michel, l'arrivée au pied des remparts de Saint-Malo, ça a été la totale. Le Mont Ventoux, la double Alpe d'Huez et ce bouquet final ici au Semnose. Ouais. Merci beaucoup à eux.
Bon, on a bien compris en tous les cas que toutes les marmottes étaient cachées aujourd'hui.
S'ils s'étaient mis sur la pointe des pieds, il aurait vu le Ménézoum là-bas dans
le Ménézoum
dans le sud Finistère.
Oh, ça m'étonnerait qu'on le voit d'ici.
Mais sans vouloir faire de jeu de mots, ce soir, à 1655 mètres d'altitude, c'est une certitude, les rescapés du Tour de France auront vu sur le Mont Blanc avec la Tour Eiffel en arrière-plan.
Oh, c'est magnifique. Et peut-être que les marmottes ressurgiront, sait-on jamais, sur les Champs-Élysées demain, lorsque le peloton du Tour de France aura rasé tout cela. 22 km de l'arrivée, et on se rapproche maintenant du pied de cette ascension du Semnose. Fred, Cyril, la grande bagarre va-t-elle avoir lieu cet après-midi, Cyril? A priori,
oui.
On l'espère.
La grande bagarre, alors, entre parenthèses, pour les places du podium et pour le classement de la montagne, puisqu'on se rend compte que depuis hier, eh bien, les adversaires de Froome ne le considèrent plus comme un adversaire, ils considèrent qu'il a gagné. La preuve, c'est que ce ne sont plus les équipiers de la Sky qui roulent en tête de peloton, ce sont soit les équipiers hier de Contador, soit ceux aujourd'hui de la Movistar, donc de Quintana, parce qu'on se bat maintenant pour la deuxième place, pour la troisième place, pour la quatrième place, et pour ne pas se retrouver cinquième, ce qui veut dire qu'on a baissé les armes, Froome a été reconnu comme le vainqueur, le grand champion de ce Tour de France, et on ne va plus faire la guerre. Va rester maintenant le classement de la montagne. Alors, je sais, j'ai fait les comptes, mon cher Christophe, parce que
ça crois qu'il vaut mieux pas. Que non, je les fasse moi que moi. Oui, voilà. Ça, c'est
eh
sûr.
Bien, compte tenu des points pris par Pierre Roland, il a 119 points. Ça veut dire que pour qu'il soit avec le maillot à poids ce soir. Il faut que Chris Froome termine à la 8e place et il faut que aucun des deux, Quintana et Nieves, ne termine dans les 5 premiers.
Oh là là, mais c'est impossible ça.
Mais si, il faut que ces deux-là ne finissent pas dans les 5 premiers et que Froome fasse 8e. Et là, Roland sera en tête.
Ouais, donc c'est quoi la probabilité? Parce que t'es fort en probabilité.
Eh ben, je te laisse le soin de.
Non, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué pour Pierre Roland de décrocher. C'est vrai qu'il a été valeureux hier sous la pluie en direction du Grand Bornand. Il a remis ça aujourd'hui. Mais le règlement du Tour de France veut que les points attribués au sommet lorsqu'une arrivée d'étape est jugée là-haut au sommet, les points sont doublés. Or, ce terrible Semnoz, c'est une difficulté répertoriée hors catégorie. Et du coup, 25 fois 2, ce sont bien 50 points qui seront décernés là-haut au vainqueur de l'étape. Ça peut changer la donne et ça devrait condamner Pierre Roland dans sa quête du maillot à poids.
Lucho, nous sommes à 20 km de l'arrivée. Tiens, pour Jens Voigt, on va y revenir dans quelques instants. Lucho, la grande bagarre va avoir lieu. Tu le penses toi aussi? Tu penses que Quintana va vouloir chercher sa victoire d'étape?
C'est évident, oui, parce que Quintana, même s'il est troisième au général, il peut se dire, ouais, ça y est, je suis sur le podium la veille des champs, j'ai plus rien à faire. Mais 21 secondes sur Contador au classement général, sachant qu'il peut éventuellement prendre la deuxième place. Et puis quand on a vu un petit peu les accélérations de Quintana dans l'Alpe d'Huez et notamment dans la deuxième montée, décrochant Contador, on peut se dire qu'il y a de l'espoir pour le Colombien de pouvoir prendre et récupérer la deuxième place de Contador. C'est vrai que de toute façon, il a pas le choix. Et je pense qu'il va attaquer dès le pied pour essayer d'entamer un petit peu les forces de Contador et jouer un petit peu comme un grimpeur, comme il est, c'est-à-dire tout par fractionné, par accélération, à répétition, pour vraiment le décrocher définitivement. Et il suffira de 5 petites secondes, après, je veux dire 25 secondes, 26 secondes, ça suffira pour passer la deuxième place et être sur les champs, deuxième du tour, parce qu'on sait très bien que la dernière étape sur les champs, à Paris, il ne se passera jamais, il ne se passera rien, même avec 5 secondes d'avance sur le classement général.
Attention, parce qu'il y en a un autre qui peut être dangereux, c'est Rodriguez, hein, lui aussi, oui, c'est une arrivée vraiment faite pour lui aujourd'hui.
Oui, c'est une arrivée pour lui, mais il n'y aura pas de conséquences. Il peut gagner aujourd'hui, mais il n'y aura pas de conséquences sur le classement général, parce que je ne pense pas que Rodriguez décroche
derrière Contador.
Je pense pas que. Oui, mais je pense pas que Rodriguez décroche Quintana. Après, peut-être que Rodriguez peut très bien prendre aussi une place sur le podium et faire décrocher Contador.
La question, c'est est-ce que Rodriguez veut marquer le tour de son empreinte en remportant une étape? Et dans ces cas-là, il sait parfaitement bien faire. Il attend les derniers hectomètres, les derniers mètres même, pour arranger tout le monde au sprint, ou il rêve d'une place sur le podium. Et dans ces cas-là, il anticipe les débats en essayant de sortir à 3, 4, 5 kilomètres de l'arrivée pour reprendre le plus de temps. C'est peut-être Rodriguez qui a la clé de cette lutte-là.
Oui, Cyril, d'autant qu'il a peut-être un compte à régler par rapport au dernier Tour d'Espagne,
oui,
où il était leader et où il s'est fait un petit peu rouler dans la farine
par Contador,
et que peut-être il va rouler tout simplement avec Quintana pour faire perdre la deuxième place peut-être à Contador.
Oh là là, c'est un règlement de compte avec Quintana aujourd'hui.
Il va y avoir, ça va être un duo.
Ah, on s'aime pas forcément entre Espagnols. On va voir ça dans quelques minutes. On a hâte d'être au pied de cette ascension du Semnoz. Nous sommes à 19 km de l'arrivée. Il reste donc 9 km avant le pied du Semnoz. On va en profiter pour s'interrompre quelques instants et revenir le plus rapidement possible sur la route du Tour. C'est l'avant-dernière étape. Restez avec nous demain. Demain, on plie les Gaules. Donc, il faut rester avec nous jusqu'à l'arrivée et jusqu'à 18h. À tout de suite. Il ne reste plus que 15 km à parcourir dans cette avant-dernière étape du Tour de France, dernière étape de montagne, dernière étape pour la grande bagarre qui ne va pas tarder à commencer dans 5 km maintenant, le pied de l'ascension de la dernière difficulté de ce Tour de France, le Semnoz, 10 km 700 d'ascension à une pente moyenne de 8,5%. C'est dire si le terrain est propice aux escaladeurs et aux grimpeurs de tout poil. On fait tout de suite un nouveau point sur la situation avec toujours un seul homme en tête, le Top Course, Fred Adam.
RMC Top Course.
Et cet homme en tête, c'est le vétéran du Tour de France, l'allemand Jens Voigt, infatigable, increvable, le coureur de l'équipe Radio-Shack qui, arc-bouté sur sa machine, est en train de livrer ses dernières forces dans la bataille à 4 km du début du Semnoz. Il compte, Jens Voigt, une minute d'avance sur un groupe de 8 contre-attaquants où l'on trouve les Français Pierre Roland, Cyril Gauthier, Christophe Riblon, ainsi que le jeune Alexis Villermoz, également également présent Philippe Gilbert, le champion du monde, avec son coéquipier de BMC, l'américain TJ Van Garderen. Attention à lui dans le Semnoz. Également présent le basque Anton et l'australien Clark. Attention, le peloton est en train de se rapprocher à 2 minutes 30. Un peloton lancé à très très vive allure dans la plaine le long du lac d'Annecy. Un peloton conduit par les Movistar de Quintana, mais aussi par les Katyusha de Rodriguez. Les Espagnols et le Colombien vont se livrer une grande bataille pour les places d'honneur derrière celui qui a priori est intouchable, le maillot jaune, Christopher Froome.
Le groupe Roland qui passe à l'instant sous l'abandon, l'indiquant les 15 derniers kilomètres. Ils sont donc relégués pour l'instant à une minute derrière Jens Voigt. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino qui suit l'homme de tête. Georges.
Oui, effectivement, devant Jens Voigt, lancé à toute allure. Pour l'instant, l'Allemand avec les mains en bas de son guidon qui continue d'accélérer alors qu'il se rapproche de plus en plus du Semnoz. On ne voit pas ses poursuivants pour l'instant qui sont derrière lui, alors que Jens Voigt est passé à l'instant sous la banderole indiquant les 15 derniers kilomètres. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette dernière difficulté, eh bien les spectateurs commencent à être de plus en plus nombreux sur le bord de la route. En Radio Tour nous a annoncé qu'il fallait prendre nos disposition pour être en avant de l'échappée parce qu'il y a beaucoup de monde au pied du Semnoz. Donc pour encourager les coureurs dans quelques instants pour cette dernière ascension du Tour de France, on a eu beaucoup de drapeaux colombiens, on en parlait il y a quelques jours, des supporters colombiens qui ont fait la route pour venir encourager Nairo Quintana. On a encore la preuve aujourd'hui, et même des supporters qui sont français également soutiennent le jeune colombien qui est véritablement la révélation du Tour de France, et qu'il y a de plus en plus de supporters. Jens Voigt lui poursuit son effort, qui continue d'avancer, la bouche grande ouverte toujours pour l'Allemand, alors qu'il se rapproche désormais moins de 4 km du début des premières pentes du Mont Semnoz.
Oui, plus que 4 km donc pour Jens Voigt, alors qu'à l'avant-garde du peloton, Fred, évidemment les équipes des leaders du classement général sont en train de s'approcher, et notamment l'équipe du maillot jaune, la Sky.
Oui, exactement, le relais vient d'être pris par les maillots noirs et bleus de la formation Sky. Ils ont laissé l'équipe Movistar et la formation Katyusha roulait toute la journée, et là à un peu plus de 4 km du pied de la dernière difficulté de ce 100e Tour de France, les Sky montrent qu'ils sont toujours les patrons. Christopher Froome calé en 3e position de ce peloton en file indienne, ça roule très très vite à l'approche d'Annecy, avec notamment Jan Steinhardt, le solide britannique, qui emmène dans sa roue le gallois Geraint Thomas. Christopher Froome en 3e position, avec en 4e place Richie Porte, l'Australien. Et puis derrière, on a Tony Martin et Michal Kwiatkowski. Les grimpeurs, eux, sont un petit peu plus loin. Contador, Quintana ou Joaquin Rodriguez occupent les 15-20e places pour l'instant sur le plat. Ils ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions. Ils vont attendre que tout le monde se gare pour faire parler leur talent d'escaladeur.
Alors Cyril, quelle tactique adopter pour Chris Froome? Quelle solution adopter aujourd'hui? Est-ce qu'il doit répondre aux attaques de Quintana, de Contador éventuellement, de Rodriguez? Est-ce qu'il va devoir boucher les trous de tout le monde, parce qu'il va probablement y avoir plusieurs attaques dans cette ascension finale?
Je ne vois absolument pas pourquoi il répondrait aux attaques. Il a plus de 5 minutes d'avance, donc autant se mettre à son train avec Richie Porte et laisser au contraire les attaques se produire. Il y a, si le troisième attaque, c'est le deuxième qui va essayer de le chercher. Si le quatrième attaque, eh bien c'est le deuxième et le troisième. Donc il n'y a pas
intérêt, mais on a vu que jusqu'à présent il répondait souvent aux attaques des outsiders. Bon, oui, le tour n'était pas joué encore.
Le tour n'était pas joué. Aujourd'hui, il suffit qu'il arrive pratiquement dans le temps des premiers de l'étape, enfin de Rodriguez, de Contador, de Kreuziger, entre autres, de Quintana, pour que son tour soit assuré. Et je pense que il n'a pas l'état d'esprit aujourd'hui, dans un premier temps, pour dire je vais me battre pour essayer de creuser des écarts, ce qui est totalement inutile, ou tout simplement dire et si je gagnais cette étape. Ouais. Donc il peut jouer la gagne de l'étape, effectivement, mais je pense pas que quand on attaque cette dernière difficulté, ce soit l'objectif principal.
Très bien, on va voir ça dans quelques instants. Nous sommes à 12 km 600 de l'arrivée. On va faire un nouveau point. S'interrompre quelques instants. Il me semble qu'il y a des garçons qui tentent de sortir du groupe de contre-attaque, Fred.
Et effectivement, on joue là à 1 minute 20 derrière l'homme de tête, Jens Voigt. Mais actuellement, c'est TJ Van Garderen, l'américain, qui profite d'une petite et brève montée juste avant l'arrivée dans Annecy au pied du Semnoz. TJ Van Garderen qui sort du groupe de contre-attaque parce qu'effectivement le peloton maillot jaune est en train de se rapprocher très près, à moins de 20 secondes de ce groupe de contre-attaque. Jens Voigt est toujours seul en tête avec 1:35 d'avance sur le peloton, avec toujours des coureurs de la Sky, en l'occurrence le Biélorusse Konstantin Siutsu. Ils sont 4 Sky à l'avant du peloton et ils sont même en train de faire un trou à l'avant du peloton. Deux coureurs de l'équipe Movistar parviennent à rentrer sur ce quatuor de l'équipe Sky. Parmi les deux Movistar, il y a là donc Nairo Quintana et son maillot blanc de meilleur jeune. Alberto Contador, attention, est contraint d'ores et déjà, avec Joaquin Rodriguez dans sa roue, de faire un effort pour boucher le trou. Dans l'ordre, on a 4 Sky, puis Rui Costa, Quintana, Contador, Rodriguez, Kreuziger et Valverde.
Et voilà, ils sont tous là, tous les cadors sont en train de se mettre en ordre de marche pour attaquer le Mont Semnoz dans quelques instants. On va vivre en intégralité cette ascension dans un instant. On se retrouve dans une petite minute, à tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et nous nous approchons du terme de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France, la dernière ascension de cette grande boucle 2013 qui se présente là sous les roues des coureurs, puisque dans quelques instants, Chris Froome, maillot jaune de ce Tour de France, abordera les premiers lacets du Semnoz. Un seul homme en tête pour l'instant, mais il n'a plus grand-chose d'avance. C'est Jens Voigt, Fred.
Avec effectivement
RMC Top Course.
Effectivement, Jens Voigt, le quadragénaire, le vétéran du Tour de France, bientôt 42 ans, qui compte une minute d'avance sur des contre-attaquants. Un trio de contre-attaquants composé de l'Américain TJ Van Garderen et des deux Français, Pierre Roland, à la chasse au maillot à poids peut-être aujourd'hui, mais ce sera dur. Et le jeune néophyte du Tour de France, Alexis Vuillermoz. Le peloton s'est rapproché à vitesse grand V dans la plaine, juste avant le pied du Semnoz. Un peloton maillot jaune désormais composé d'une vingtaine d'unités seulement, 4 Sky encore. Notez la présence de Romain Bardet avec les tout meilleurs de ce 100e Tour de France.
Voilà le peloton maillot jaune qui aborde à l'instant même les 10 derniers kilomètres de ce Tour de France, pas de ce Tour de France mais de cette 20e étape. 10 derniers kilomètres
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Et les Movistar qui commencent à mettre le feu dans ses premiers lacets. Fred, un coureur, un coéquipier de Quintana qui a donc attaqué mais qui a accéléré le rythme plus exactement. Chris Froome en deuxième position.
Et c'est Rui Costa, le double vainqueur d'étape sur ce Tour de France, qui mène la danse. Effectivement, il est en train d'écrémer le groupe maillot jaune avec donc dans sa roue Christopher Froome. Il y a là Richie Porte, Nairo Quintana, Alberto Contador, Roman Kreuziger, Joaquin Rodriguez. On aperçoit également Romain Bardet, toujours le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, 16e du classement général et premier français, qui souffre d'une angine mais qui tient bon. Un groupe qui est en train de fondre à vue d'œil, on est en train de faire le ménage. Rui Costa a encore des jambes malgré sa victoire hier au Grand Bornand.
Voilà, Pierre Roland qui va se faire rattraper dans quelques instants par Rui Costa, Chris Froome, Richie Porte, Quintana, Contador, Kreuziger. Ils sont tous là, tous les cadors, ceux qui depuis trois semaines maintenant nous font rêver. Eh bien, ils vont se livrer une dernière bataille. Ce sera la dernière grande bataille de ce Tour de France 2013. Pierre Roland, rattrapé à l'instant même donc par le regard du peloton maillot jaune. La bagarre pourrait débuter quand, Cyril, pour aller chercher ce podium du Tour de France?
Elle est partie puisque Rui Costa a essayé de durcir la course. C'est son rôle, de façon à mettre à la rupture Contador. C'est l'objectif. Et Rui Costa qui est tout simplement en train de relancer l'allure avec le maillot jaune dans sa roue, mais aussi avec ses équipiers.
Incroyable, Rui Costa, vainqueur de deux étapes dont celle d'hier, qui encore une fois aujourd'hui est à l'avant de la course, alors qu'un ancien vainqueur du Tour de France est largué à l'arrière, mon cher Fred.
Andy Schleck, évidemment, qui montre ses limites une nouvelle fois, le luxembourgeois. On ne parle pas de Cadel Evans, lui aussi ancien vainqueur à la dérive, mais ils sont nombreux à faire les frais effectivement du rythme effréné imposé par les Movistar toute la journée, par les Sky à l'approche du Semnoz et en ce moment même par Rui Costa qui a dans sa roue Froome, Porte, Valverde également est là, derrière ça décroche, on n'a plus que 8 coureurs. Rui Costa, Froome, Porte, Quintana, Contador, Kreuziger, Rodriguez et Valverde. Le compte est bon, ils sont bel et bien 8 derrière l'homme seul en tête, Jens Voigt, qui compte toujours 45 secondes de retard. C'est toujours Rui Costa qui emmène ce groupe de 8 coureurs dans le groupe maillot jaune, et à l'instant vient de se repositionner devant le maillot jaune en deuxième position de ce groupe, Richie Porte, bien réquisitionné sanctionné par Christopher Froome qui lui a demandé de venir à son tour imprimer le rythme. Manège ouais. parfaitement organisé par
c'est
les Sky.
C'est pas du tout la même ambiance qu'il régnait l'an dernier entre les deux leaders de la formation Sky, Bradley Wiggins et Chris Froome, qui ne s'entendaient pas du tout. Mais là, c'est vrai que l'alliance entre les deux hommes, Cyril, est impressionnante depuis le début de ce Tour de France. C'est son plus fidèle lieutenant et à chaque fois qu'il y a danger, eh bien Richie Porte est là pour protéger Chris Froome.
Oui, surtout dans les arrivées au sommet où il a une capacité à assurer un rythme très très élevé qui la plupart du temps asphyxie ses adversaires, et Froome n'a plus qu'à faire la différence, sauf dans l'Alpe d'Huez où là il y avait un petit grain de sable dans le moteur. Mais Richie Porte est vraisemblablement l'un des futurs grands leaders dans les années à venir, parce que je pense pas qu'il restera dans cette position d'équipier ouais. fidèle.
Ouais, pour l'instant il est copain avec Chris Froome, mais peut-être sera-t-il attiré par les lumières, par l'argent qu'on lui promettrait. Évidemment, il y a un garçon qui vient d'attaquer, Fred.
Et oui, c'est le dynamiteur de cette fin de troisième semaine. Ce n'est plus Contador, mais bien son compatriote Joaquin Rodriguez, le grimpeur catalan qui pointait ce matin à la cinquième place du classement général et qui apparemment a des rêves de podium, puisqu'il était à 47 secondes, très exactement, du deuxième, Alberto Contador. On vous rappelle que derrière l'intouchable Christopher Froome, ils sont quatre coureurs en moins de 50 secondes. Rodriguez qui a testé la concurrence avant de rentrer dans le rang. Rui Costa, le Portugais de la Movistar, est en train de s'écarter à l'avant du groupe maillot jaune, relayé à l'instant par Alejandro Valverde. Valverde qui veut lancer son grimpeur colombien Nairo Quintana, meilleur jeune du Tour et surtout troisième du général. Vous voyez qu'on est en train de positionner les pions de manière idéale. Valverde qui a dans sa roue Richie Porte, Christopher Froome, Quintana en 4, Contador en 5, Kreuziger en 6 et Rodriguez en 7, tandis que Kreuziger effectivement vient de laisser passer Joaquin Rodriguez et lâche mètre après mètre. C'en est terminé des rêves de podium pour Roman Kreuziger.
Ah, il s'accroche, il tente de s'accrocher, il se met en danseuse pour tenter de revenir, bah car derrière c'est un petit peu devant, c'est un petit peu ralenti, mais il ne parviendra pas. Il sait qu'il laisse échapper là le podium et peut-être voilà le top 5 de ce Tour de France.
En voilà un de moins dans le mouchoir de poche dans lequel se tenaient quatre coureurs ce matin pour cette deuxième place. Il n'y a plus donc que Contador, Quintana et Rodriguez concernés par cette deuxième place.
Valverde, leader de la formation Movistar au départ de ce Tour de France et qui est en train de jouer le rôle d'équipier modèle. Incroyable pour ce garçon qui est quand même l'un des tout meilleurs coureurs du monde, Cyril, et qui là travaille pour Quintana, qui est un néophyte et qui découvre le Tour de France. Incroyable.
Oui, c'est pas incroyable, c'est tout à fait logique, tout à fait normal.
On connaît l'ego des grands champions, c'est bien, c'est oui, bon
mais,
en tous les cas.
Mais vous savez que les grands champions sont capables de se mettre aussi au service de leurs équipiers quand la situation l'oblige. On a vu les Bernard Hinault, on a vu les Laurent Fignon le faire pour leurs équipiers. C'est tout à fait logique. Il y a un moment, vous êtes obligé de renvoyer l'ascenseur. Vos équipiers ont travaillé pour vous des fois pendant des années, pendant souvent plusieurs années. Le jour où ils sont en position d'aller chercher un podium et que vous ne l'avez pas, vous avez à cœur de ouais. faire ce que fait Valverde actuellement.
C'est un travail d'équipe. Le cyclisme qui est un sport individuel, mais plus certainement un sport d'équipe. Fred, nouveau point sur la situation. Nous sommes dans l'ascension du Semnoz. 8 600 km pour l'homme de tête.
J'envoie fait de la résistance. Jens Voigt, l'allemand quadragénaire de l'équipe Radio Shack, est toujours seul en tête à 8 km 500 de l'arrivée et il est à l'instant absorbé par le groupe maillot jaune. Ils ne sont plus que 7 dans ce groupe maillot jaune. Valverde, Porte et Froome, les deux Sky, Contador, Quintana et Rodriguez, puisque Roman Kreuziger a décroché. Voilà le groupe de 7 qui va se disputer la victoire ici au Semnoz. Il reste 8 km 500 d'ascension.
Kreuziger qui est en difficulté, Lucho. Kreuziger qui dit adieu au podium en ce moment. Hein.
Oui, il dit complètement adieu au podium. Mais ce que je remarque dans le groupe maillot jaune, c'est que Rodriguez est dans la roue de Quintana et Rodriguez attend l'attaque de Quintana parce qu'il
se méfie.
Ils sont tous les deux très très costauds et sans tarder, Quintana risquerait d'attaquer avec Rodriguez dans sa roue.
Ouais, c'est de mauvaise nouvelle. Ils ne sont plus que 6 en tête. Oui. Donc le maillot à poids ne sera pas sur les épaules.
Ah oui, effectivement, Cyril, tu nous le disais tout à l'heure. Donc Pierre Roland qui voit ses derniers espoirs.
Attention à l'accélération de Nairo Quintana, peut-être, qui se porte à hauteur de Richie Porte et de Christopher Froome sur la gauche de la route. Il revient sur Rodriguez qui a accéléré. On a laissé un trou chez Sky. Christopher Froome et Richie Porte sont un petit peu à sec à 8 300 de l'arrivée.
Aussi, hein.
Rodriguez et Quintana ouvrent la route.
Le sprint. On attendait le sprint de Chris Froome, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu.
Contre-attaque de Chris Froome qui vient assommer Rodriguez et Quintana. Il met la surmultiplier le maillot jaune britannique à plus de 8 km de l'arrivée au Semnoz. Il a laissé filer Rodriguez et Quintana lorsque son équipier Richie Porte était en train de décrocher. Il est revenu tout seul comme un grand en déposant littéralement Contador et Valverde.
Mais il aurait battu Cavendish là dans un sprint en ligne hein, sur cette accélération.
Il nous refait le coup du Ventoux avec ses accélérations, avec une fréquence de pédalage très élevée. Il ne s'est pas du tout attardé aux côtés de Quintana et Rodriguez. Il compte désormais une petite vingtaine de mètres d'avance sur ce duo-là.
Il procède par accélération.
Exactement comme dans le Ventoux.
Contador est en train de perdre le podium.
Contador qui était en difficulté depuis plusieurs jours. Alberto Contador qui est lâché à l'arrière de ce groupe maillot jaune avec Chris Froome donc devant, juste derrière dans sa roue. Rodriguez et Quintana qui ne sont plus qu'à 400 mètres. Rodriguez qui fait l'effort maintenant pour revenir dans la roue du maillot jaune. Et Contador, tout comme son coéquipier Kreuziger, qui sont lâchés. Contador qui passe maintenant deuxième au général.
8 km.
21 secondes d'avance sur Quintana.
C'est long.
On va voir, mais il est en train peut-être de perdre la deuxième place et peut-être le podium. La moto RMC, je ne sais pas si elle voit quelque chose avec Georges Quirino et Marc Combe. Georges.
Oui, c'est un peu compliqué de voir quelque chose dans cette ascension du Semnoz. Il y a beaucoup de monde, on est au milieu des arbres et pour l'instant difficile d'avoir un visuel sur les zones de tête, Christophe là.
Très bien, on va rester donc ici en visuel avec nos écrans de contrôle. Un petit groupe donc composé de trois garçons, Fred.
Oui, le podium probablement de ce 100e Tour de France, puisque il se tenait dans un mouchoir de poche en moins de 50 secondes. Quatre coureurs étaient à la lutte pour les deuxième et troisième places. Mais là, vu le trou que vient de faire le trio Christopher Froome, Joaquin Rodriguez et Nairo Quintana à plus de 7 km 500 de l'arrivée désormais. On peut se dire qu'il y aura un écart considérable entre ce trio Froome, Quintana, Rodriguez et notamment Alberto Contador qui navigue à la quatrième place mais décroché à une quinzaine de secondes. Derrière effectivement il y a les miettes. On va continuer de s'entendre comme ça entre Rodriguez l'Espagnol, Quintana le Colombien et Christopher Froome le maillot jaune. Ils ont tous les trois tout intérêt à s'entendre. Contador est désormais à 25 secondes, Kreuziger à 30.
Voilà, 25
secondes. Il a perdu la deuxième place.
Il a perdu la deuxième place. Pour l'instant, il est encore sur le podium de ce Tour de France, Alberto Contador, mais il ne va pas falloir traîner en route parce que Rodriguez pourrait lui ravir cette place. Rodriguez, qui n'était pas très loin ce matin au général, Fred. Hein.
Non, il était à 5,58, c'est-à-dire à 47 secondes de Contador dans 22 secondes, on va dire, en faveur de Rodriguez. Rodriguez volerait la place de Contador sur le podium, tandis que Quintana, lui, se glisserait dans la peau du dauphin de Christopher Froome.
Ça n'a pas l'air de bien s'entendre là dans le groupe
Ça discute, on ne se relaie plus. Et Joaquin Rodriguez a bien compris, lui, le grimpeur de l'équipe Katusha, il a bien compris tout l'intérêt qu'il a à reprendre le rythme. Il se positionne à l'avant de ce trio de tête. Dernier pointage pour Contador, qui est accompagné de Richie Porte, le coéquipier de Christopher Froome. 23 secondes de retard pour Contador, qui va essayer de monter le plus régulièrement possible maintenant.
Et Contador, on vous le rappelle, qui ne comptait que 21 secondes d'avance ce matin sur Quintana pour la deuxième place de ce Tour de France. Contador qui est donc en train de perdre cette deuxième place, lui qui était donné comme co-favori de ce Tour de France. Il aura souffert, il aura beaucoup montré beaucoup de choses durant ce Tour de France, mais là c'est vrai que cette dernière semaine lui est fatale, Alberto Contador.
Et Alberto Contador qui a d'ores et déjà tiré un trait sur le Tour d'Espagne de cette année. Il l'a annoncé hier à nos confrères belges de Sportza, la télé flamande. Il veut dès demain soir arriver sur les Champs-Élysées, se reconcentrer sur le Tour de France 2014. Il conçoit qu'il est tombé sur plus fort que lui, mais il va faire maintenant une fixette sur le Tour 2014. Plus question de se disperser, et l'an prochain on devrait à nouveau avoir un Contador qui vise la victoire.
Il y aura du beau monde probablement sur le Tour de France l'an prochain, avec Quintana évidemment, avec Froome, avec peut-être Nibali qui est vainqueur du dernier Giro et qui nous avait régalé l'an dernier. On espère avoir un plateau de choix. En tous les cas, pour l'instant nous sommes à 6 km 600 de l'arrivée, et le boss reste évidemment Chris Froome, qui nous a montré tout à l'heure qu'il avait toujours ses jambes du Ventoux. Cyril, impressionnant démarrage tout à l'heure de Chris Froome, qui maintenant se met en troisième position et qui laisse les choses se faire. Il ne va pas attaquer aujourd'hui, il lui suffit de combler les trous seulement hein. Mais c'est jamais avec lui, oui, c'est vrai.
Il a comblé le trou très vite, il est sorti d'ailleurs, et puis c'est assez amusant parce que Quintana, c'est ce qu'il fait hein. À chaque fois que Froome attaque, il n'est pas allé le chercher, et au train il est revenu dans la roue de l'anglais, et j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas poursuivre très longtemps son effort tout à l'heure. Froome, les trois hommes sont maintenant ensemble. Alors Froome, il sait que de toute façon les deux autres vont rouler. Donc à mon avis,
oui, il a pas intérêt,
il peut aller cueillir
Rodriguez.
Est-ce qu'il va leur laisser quelques miettes dans ce Tour de France à ses suivants, à ses dauphins, à tous ceux qui l'ont embêté durant trois semaines? On verra ça dans quelques instants. En tous les cas, Chris Froome a pris la tête des opérations. Désormais, il prend les relais, lui, à son tour.
Contador à 36 secondes.
Ouais, Contador,
pourquoi Christopher Froome roule? C'est une bonne question à laquelle on aura du mal.
Est-ce que tu aurais une réponse?
On aura du mal à trouver une réponse. Bah, à l'arrière, Contador vient de voir le renfort de Kreuziger, mais là, on navigue à 35 secondes et Kreuziger n'est pas dans un meilleur état.
J'ai l'impression que Froome n'a pas envie de voir Contador sur le podium.
Exactement, ça ressemble à ça.
C'est surtout ça, je pense que son manager général, quand tu as dit tout à l'heure par rapport à Millard et que Contador a été dans les affaires aussi, il n'a pas envie de voir un ancien coureur, enfin un coureur comme Contador qui était dans les affaires, être aux côtés de Froome sur le podium.
Sur la photo des
Champs-Élysées. Ils se sont un petit peu attaqués par presse interposée, par petite déclaration
interposée. Est-ce qu'il a eu les ordres à la Froome de rouler
Je ne sais pas s'il a besoin d'ordre.
Non, peut-être pas, mais bon, ils ont peut-être discuté aussi avec son manager.
Un trio à 6 km de l'arrivée, à 6 km du Semnoz, la dernière difficulté de ce 100e Tour de France, classé hors catégorie, et il reste des pentes raides pour le trio de tête composé de Christopher Froome, le maillot jaune, de Nairo Quintana, le maillot blanc.